Vous écoutez Radio Courtoisie, très bonne nuit à tous. Voici maintenant la rediffusion du libre journal de Serge de Beketch, l'émission d'hier soir. Il est 2h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 mars 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 29, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Le libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis électriciens, bonsoir.
Tiens.
Ah oui, les amis électriciens, les électriciens, c'est les amis de la résistance.
Oh là 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 là, ça vient de loin, ça.
Voilà, bon, eh bien écoutez, j'étais content de faire cette émission. Rentrez chez nous. De quoi va-t-on parler ? On va parler de l'actualité, on va parler... Oh, dis donc, je suis obligé d'engueuler le directeur du zoo de Vincennes, il est encore parti hier soir laissant la cage ouverte.
Pourquoi tu tousses ?
Ben parce que tout le monde tousse en ce moment. Tout le monde a des... Tiens, j'ai apporté une photo en noir et noir. C'est les émeutes de...
Hier soir ?
Les émeutes d'hier soir.
À la gare du Nord, donc on va peut-être présenter sommairement pour nos amis, nos auditeurs d'outre-mer.
Eh ben faites donc ça, tiens, présentez-nous la gare du Nord.
En deux mots, c'est après Châtelet, je crois, le plus important nœud ferroviaire de la ville de Paris, intramuros, avec plusieurs lignes de métro, plusieurs lignes de RER et de SNCF. Moyennant quoi, je ne vois pas bien le rapport, mais enfin c'est ainsi, tous ceux qui sont passés une fois dans leur vie à la gare du Nord s'en souviennent. Tous ceux d'ailleurs qui ont acheté ce matin Le Parisien ou aujourd'hui en France peuvent voir ce qu'il en est. Il y a des centaines et des centaines, tellement de centaines que ça doit faire des milliers, d'Africains qui visiblement ne savent pas que 500 000 emplois sont disponibles, non pourvus en France actuellement, dans le bâtiment, dans la restauration. Ça demande pas d'être polytechnicien, tous ces boulots-là. Alors ils sont là à tenir les murs. Et je me suis laissé dire qu'il faisait pas que tenir les murs, qu'il y avait différents échanges
du troc. Des échanges culturels.
Voilà.
De l'apport culturel. Ça s'appelle une chance pour la France. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette gare est intéressante parce que c'est fait quand même faire beaucoup d'économies. Parce que si vous voulez visiter, avoir des contacts humains avec l'ensemble de la planète, c'est vraiment pas la peine de prendre l'avion, d'aller chez Sans Frontières ou je ne sais quoi, Voyage sans retour, Découverte sans espérance, et des choses comme ça. Vous allez simplement à la gare du Nord. Et là, venez armés, l'endroit n'est pas désert, je vous le dis tout de suite.
Et à preuve...
Il y a des bruits de tam-tam, ces trucs-là. Voilà.
Les incidents ont démarré parce qu'un individu a été contrôlé sans ticket dans le métro, sans titre de transport, comme on dit. Et cet individu, alors même France Info, c'est France Info qui me l'a appris hier, c'est dire si la situation est grave, parce qu'ils ont l'habitude de gazer, de dissimuler ces choses d'habitude. Cet individu est un immigré africain clandestin. Et non seulement il se promène sans titre de transport dans le métro, mais il est déjà titulaire d'une dizaine, le héros d'une dizaine de faits divers. Est-ce que ça signifie...
Parce qu'en été, il repart chez lui pour se reposer, peut-être.
Probablement. En tout cas, on a vaguement l'impression qu'il a pas trop peur d'être expulsé, alors qu'on nous décrit, la gauche et la plupart des médias nous décrivent les jeunes et les immigrés clandestins comme vivant dans la terreur, la clandestinité rasant les murs, lui... Il en est à 10 faits divers, il a toujours pas été expulsé, il est toujours pas en cabane. Et il déclenche des émeutes en se rebellant violemment, en frappant les agents de la RATP.
Ce qui est fabuleux, c'est que j'ai entendu...
Il gifle.
Remarquez, qui n'a pas eu envie d'en gifler de temps en temps, faut bien dire. Mais nous, on passe pas à l'acte, c'est la différence, parce que nous, on a reçu un truc qui s'appelle l'éducation. Pas forcément bonne, mais enfin, au moins, on a eu une éducation. J'entendais quelqu'un ce matin qui disait, je suppose que c'était ce crétin de langue ou cet imbécile de Beauvais, enfin un type de cette, qui disait que vraiment il y en avait marre des violences policières. Alors même le journaliste de France Info, qui décidément sont obligés, il y a des moments où la situation est tellement lourde que même les journalistes de France Info sont obligés de dire la vérité, lui dit, enfin je voudrais quand même vous faire remarquer que les 9 blessés sont tous des policiers. Quoi. Voilà. À mon avis, ils ont dû se blesser en tapant.
Ils ont commencé par dire que c'était un enfant alors qu'il a 33 ans.
Oui, alors j'ai entendu la bonne femme qui disait, ils se sont jetés avec sauvagerie sur ce petit garçon. Le petit garçon, il a 33 ans. C'est peut-être un pygmée, je l'ai dit. Hein.
Et puis, il faut savoir que dans les premiers reportages, pendant un long moment, il y avait une séparation, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les CRS, de l'autre côté les émeutiers, mais au milieu, il y avait les voyageurs qui passaient tranquillement et certains disaient qu'ils étaient étonnés de la non-intervention des CRS. Ouais.
Quand les CRS sont intervenus, ils ont été étonnés de la violence de l'intervention. Moi, je pense, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète, ce peuple a profondément une mentalité de collabo. Quand ils sont occupés, ils sont à la botte de l'occupant. Il n'y a rien à faire, c'est vicieux. Alors quand ils sont occupés par les gaullistes, ils sont à la botte des gaullistes. Quand ils sont occupés par les socialistes, ils sont à la botte des socialistes. Et je sais que je peux dire ça aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que eux, justement, ils font pas partie de ces collabos. Mais la grande majorité de la population, c'est ça. Et en ce moment, on est occupés. Et les gens voient les résistants. Les résistants, qu'est-ce que c'est en ce moment? Pour une fois, les résistants, c'est les flics. Les CRS, les gendarmes, les policiers, qui résistent à une invasion qui est fondée sur la terreur, ni plus ni moins. Et alors, les bons bourgeois vont siffler les flics et dire que non, vraiment, c'est scandaleux, cette violence. Moi, je n'espère qu'une chose, c'est que tous ces gens qui ont fait des déclarations se fassent détroncher la gueule une bonne fois pour toutes un jour dans le métro. Mais vraiment, alors, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que... ce que disait, pourtant, Dieu sait qu'il ne prend pas beaucoup de risques, hein. Le type de radio Monte Carlo ce matin, je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe, il disait, c'est quand même étonnant de voir les gens qui s'ameutent pour dénoncer les violences policières, mais quand il y a quelqu'un qui est agressé dans le métro, dans une rame de métro, il n'y en a pas un qui pipe, ils sont tous le nez dans leurs chaussures. Enfin, il ne disait pas ça exactement comme ça, mais c'était ça revenait à ça. Le nez dans leurs chaussures en attendant que ça se passe et que les gars aient fini de violer la malheureuse.
Puisque nous parlions, Serge, de policiers blessés, il se trouve qu'hier après-midi, donc le même jour, par une coïncidence extraordinaire, 5000 policiers manifestaient à Marseille.
Ça a bien fait de venir manifester à la gare du Nord.
À l'appel de l'UNSA Police, qui est, je crois, un syndicat de gauche, mais majoritaire chez les gardiens de la paix. Et voilà ce que déclare le secrétaire de ce syndicat. Nous allons finir par atteindre le point de non-retour. Patron de l'UNSA Police, déclare M. Massenet, patron de l'UNSA Police. En 2006, 11 000 policiers ont été blessés en service. Cela représente le pourcentage phénoménal de 10% du corps des gradés et gardiens, en l'occurrence ceux qui sont vraiment sur le terrain. En 2005, il n'y avait eu que 9800 blessés. Ce chiffre explose depuis 2000. Les voitures brûlent comme jamais dans les quartiers. Pourquoi dit-on que tout va bien? Qui dit ça?
Je sais pas, moi en tout cas. Alors, il paraît que le 26 mars, Sarkozy a quitté le ministère de l'Intérieur. Hein? le 27 mars, il y a eu les émeutes, et le 28, on lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez des émeutes de la nuit ?» Il a répondu « Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. » Il est quand même fabuleux, celui-là. Le culot de ce mec, c'est un vrai semblable. Ah oui, Barouin, il commence bien. La porte-poisse. Ouais. Non, mais c'est de la faute de Barouin. Ouais. Enfin, c'est clair. C'est la faute à Barouin. Comme par hasard, c'est un franc-mac. Hein. Non.
Parce que c'est la faute à Le Pen.
Oh oui, d'accord.
Parce que ça, c'est pour les élections, non, c'est fait exprès. C'est,
bien sûr.
C'est Le Pen qui a déclenché les...
Mais Barouin, c'est... voilà encore un complot à ce lit, tiens. Hein, on est en plein, là. Comme par hasard, il prend le ministère de l'Intérieur, le lendemain, badaboum.
Il suit la voie de son père, hein, puisque son père n'a pas été ministre. Ouais. Mais de...
Je vous propose deux réactions à ces émeutes raciales de la gare du Nord de la part du Parti Socialiste. Julien Drey, ancien trotskiste, porte-parole de Ségolène Royal, estime que la violence est installée entre la police et la population. Alors, juste à côté, le Parisien libéré, qui n'est pas spécialement de droite non plus, nous explique que les émeutes ont mis aux prises 200 individus. Et Serge nous montre encore, pour ceux qui ont la radio en couleur, sa photo noire et noire de ces émeutes. Et eux, Julien Drey appelle ça la population, ces 200 individus oisifs qui tiennent les murs de la gare du Nord. Quant à Delphine Bateau, responsable de la sécurité au Parti Socialiste, alors arrêtons-nous un instant, vous vous souvenez de Delphine Bateau? Elle est particulièrement qualifiée puisqu'elle était numéro 2 de SOS Racisme sous la coupe de Faudécilla il y a quelques années. Alors elle nous explique que c'est les jeunes, voilà, c'est les jeunes, ces 200 individus, ce sont les jeunes, pourquoi pas dire la jeunesse?
La jeunesse de France.
Voilà, la jeunesse de France.
Là, la photo, je la regarde, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas la montrer quelque part. Faudra qu'on fasse installer une caméra un jour, une webcam.
Il y a le blog, Serge.
On fera installer
le blog de radiocourtoisie.net.
Parce qu'elle est extraordinaire, cette photo. Vraiment extraordinaire. Elle est, c'est photo en noir et noir, très, très, très intéressante. Et il y a une fille qui est blonde, on ne sait pas pourquoi. C'est certainement pas naturel. Certainement pas naturel. Elle a une grande perruque blonde.
La négresse blonde, c'était pas un roman de Blondin, justement.
De Blondin, oui. Non, pas de Blondin. Non, enfin, c'était un roman, oui. Et alors, elle fait un doigt d'honneur. On voit qu'il y a une espèce de mélange de culture, de tradition, d'élégance, de beauté, de sensibilité. Et tous ces gens-là sont hilars. On voit d'ailleurs pourquoi ils se marrent, c'est qu'ils sont en train de voir les flics se faire détrancher. C'est bien, continuez comme ça, mes petits. Continuez comme ça. Vous... Moi, je veux vous dire, la vraie vérité du bon Dieu, hein. Quand j'ai entendu ça hier soir, j'ai dit Alléluia. Voilà. J'entends les voix tomber.
Ouais, je vous dis, c'est un coup de Le Pen.
9 personnes, 100 000 voix par personne, minimum, ont été interpellées mardi soir à la gare du Nord à Paris après des heures qui ont opposé plusieurs centaines de personnes à des policiers à la suite d'un incident ayant opposé un voyageur à des contrôleurs de la RATP. Alors voyez comment écrivent les journaux. C'est un incident qui oppose le gars. On lui dit, monsieur, vous avez votre ticket? Là, je n'ai pas de ticket, je t'emmerde. Bon, alors on lui dit, ben, monsieur, suivez-nous, beaucoup de boules. Et puis voilà. Alors que c'est un incident qui oppose un voyageur à des employés de la RATP, à des contrôleurs de la RATP. C'est deux bandes qui se battent, quoi, pratiquement, hein. Et c'est les contrôleurs de la RATP qui sont des agresseurs. Écoutez, franchement, d'ailleurs, c'est vrai, c'est des agresseurs. Parce que quand on voit la tronche de certains types, on sait très bien que si on va leur demander le billet, ils vont dire, oh, je t'en mets, je n'ai pas le billet, tout.
On leur demande pas, d'ailleurs, Serge, à deux stations de là, à Château-Rouge, puisqu'on décrivait la gare du Nord tout à l'heure, au métro Château-Rouge, essayez un peu de sortir de la station en moins de 5 minutes. Vous ne pouvez pas sortir. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi?
Non,
vous
seriez
là-bas?
Non.
Eh ben, je vais vous le dire quand même. C'est que par la sortie, il entre sans ticket et en fraude
des, tas de gens.
Des dizaines de voyageurs, des voyageurs qui ont voyagé de très loin et qui vous marchent sur la gueule, excusez l'expression, et qui vous empêchent de sortir tellement ils sont pressés d'entrer en fraude. Ouais.
En début de soirée, alors que le gros de la foule s'était dispersé, quelques dizaines de jeunes ont entrepris de casser les vitres. Nous allons entreprendre de casser des vitres.
Ils sont entrepreneurs.
Et des distributeurs automatiques. Ils sont pour la libre entreprise. Se servant. Alors là, on voit l'astuce parce que je parlais tout à l'heure du... Bon, eh ben, ils utilisent des outils. Ils ont déjà la notion de l'outil, vous voyez. Se servant de poteaux métalliques utilisés dans le métro pour délimiter les files d'attente. quelques jeunes au cri de « police partout, justice nulle part ». Police partout, justice nulle part ».
C'est un slogan anarchiste.
Mais alors, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu une image furtive à la télévision où il y avait une jeune fille qui écrivait, sans faute d'orthographe ni rien, quelque chose comme « le pouvoir au peuple, le peuple est dans la rue » ou... donc on sait bien qu'est-ce qu'il y a derrière, tout de suite, c'est évident ça. « Abat l'État, les flics et les patrons ». Voilà,
ça c'est
typico anard. Quelques jeunes « Abat les flics, l'État et les patrons ». Puis en même temps, je trouve pas de travail.
Manger.
Quelques jeunes ont continué à insulter et à huer plusieurs dizaines de policiers et gendarmes, dont certains ont tenu anti-émeute. Selon le journaliste de TF1 présent sur place, Christophe Pallet, les heures de l'après-midi ont été très violents. Environ 200 personnes présentées par la police comme des marginaux. En fait, c'est pas vrai, c'est tous des étudiants en médecine de la faculté de Bamako qui sont venus en voyage d'été de là.
Et des philosophes péripatéticiens.
Alors, présentés par la police comme des marginaux habitués de l'endroit, c'est les fameux teneurs de mur dont parlait... Vous vous souvenez le gag dans Casablanca de...
Pour ceux qui sont
souvenus, Marc Brozer, c'est Harpo Marx qui est appuyé contre un mur, le muet. Et il y a un type qui passe et dit « Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Tu es en train de soutenir le mur ?» Et Harpo Marx fait un « Oui, oui » de la tête, extrêmement vigoureux et convaincu. Et l'autre lui dit « Allez, dégage de là !» Alors il s'en va et le mur s'effondre.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de tenir les murs, tous les vitres dégringolent.
Les émeutiers ont jeté divers projectiles sur les forces de l'ordre, dont des pots de fleurs et des bouteilles vides. Quand même, hein, attention, ont rapporté des témoins. Au cri de Sarkozy hypocrite, il y avait quand même un mec lucide dans la bande, les jeunes ont expliqué être venus protester contre les brutalités infligées à un voyageur dépourvu de titre de transport. Alors, on imagine la scène. Monsieur, pourquoi vous êtes venu tout casser?
Moi, je suis venu pour... protester contre les brutalités infligées à un voyageur dépourvu des titres de transport. N'est-ce pas? Qui était en situation illégale de contrevenance absolue.
Non, c'est pas comme ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, on est venu casser les poulets. Affirmant que ce dernier avait eu la main cassée. Alors, il s'était déjà un bras cassé, maintenant c'est la main. Trafic perturbé, Gare du Nord. Selon la préfecture, les incidents ont commencé
trafic
vers...
Trafic ferroviaire, Serge.
Oui, parce que le trafic de drogue a continué, je vous rassure. Quand un voyageur dépourvu de titre de transport a été contrôlé par deux agents RATP et s'est rebellé, blessant les deux contrôleurs. Selon les informations recueillies par LCI, du plan Vigipl, l'homme est âgé de 33 ans. Un petit garçon, disait la... Un groupe de gendarmes qui patrouillait dans la gare dans le cadre du plan Vigipirate a alors interpellé l'individu en question et l'a conduit dans un local de solidarité. Viens, on va te conduire dans un local de solidarité. Ah non, je ne veux pas y aller. Si, tu vas voir. Ça, c'est quand même assez
long. Le mettre en stage avec Delarue, peut-être. Oui.
Ah, on va en parler, celui-là. Plusieurs dizaines de personnes. À chaque fois, ça se réduit. Il y en avait des plusieurs centaines, après 200, maintenant plusieurs dizaines. Se sont alors rassemblés devant ce local et les affrontements ont commencé, amenant la venue de renforts de police. Par mesure de sécurité, la RATP a ordonné aux rames de deux lignes importantes de métro et aux rames de ligne D du RER qui transite par la gare du Nord de ne plus s'arrêter à la station. Comme toujours, c'est le brave type qui rentre chez lui qui t'emmerde avec le... En début de soirée, le trafic sur les lignes 4 et 5 du métro ainsi que la ligne B n'a toujours pas été rétabli.
Voilà. Sans parler des dégâts et des impôts pour tout le monde.
LCI a recueilli des témoignages. Alors, Mehdi, arrivé à la gare du Nord, annonce au parleur, les trains de la ligne 4 et 5 ne marquent pas l'arrêt de la gare du Nord. On voit un certain nombre de policiers casqués avec gilets pare-balles, flashballes, lance-grenades, lacrymogènes. Que se passe-t-il? Un attentat? Une bagarre? Une émeute? Aucune information de la part des agents. On entend des sifflets, des cris, mais on ne voit rien si ce n'est un attroupement. Certains prennent des photos avec leur portable. Mehdi et David qui te donnent envie. Alors, David, j'étais à la gare du Nord pendant les affrontements et je dois dire que je suis choqué à la fois par le comportement violent des policiers et par le traitement médiatique de l'événement. On croirait que Paris est à feu et à sang. Mais non, pas du tout.
Ouais, ça, tout va bien.
Alors que les émeutiers n'étaient que des personnes outrées par le comportement des forces de l'ordre. Ah, je suis outré. Ça, c'est pas croyable.
C'est un monde de fous, hein.
Quel monde de pourrave.
C'est un monde de fous.
de pérave, comme dirait mon ami Néné. Et alors, vous ne savez pas le meilleur, quand même.
Non.
C'est que probablement, parmi les flics, ils auraient dû faire gaffe, les émeutiers. Parce que probablement, parmi les flics, il y avait un policier affecté à la sécurité du métro et du RER, qui s'appelle Antoine Granomore. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Antoine Granomore ? Antoine Granomore, c'est le fonctionnaire de police qui a tué le 23 novembre dernier Julien Kemener, supporter du club du PSG, et blessé gravement un autre supporter. Mounir Bouchaer. Vous vous rappelez ça ?
Oui, mais je croyais qu'il était suspendu. Oui, en
disponibilité. Il a été versé à la sécurité du métro et du RER.
C'est dingue.
C'est marrant, ça. Hein.
Alors qu'il était condamné.
Alors, il a. Ah oui, non, il n'a pas été condamné. Il est paru le 6 mars dernier devant la 17e pour des faits qui remontent à 2005, escroquerie et dénonciation mensongère. Alors, l'histoire, c'est que. il piquait la carte de son beau-père pour faire des emplettes. Et sa belle-mère lui dit, tiens, puisque vous êtes policier, mon gendre, vous devriez enquêter là-dessus.
Un monde de fous, comme disait Rondeau.
Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'affole, il va voir ses collègues policiers et il dit, il y a des Arabes qui m'ont enlevé, qui m'ont séquestré. Texto, hein, j'invente rien.
Il est antillais, lui. Hein, faut dire.
Enlevé, séquestré, torturé et même violé. Donc, c'est probablement des Arabes des 15-20. Hein, bon. Ceci à plusieurs reprises, tout au long de l'année 2004. Soumis à rançon, 15 000 euros, le gardien, parce qu'en plus, il le faisait payer. Donc, en temps de le violer, ils le font payer. Il y a vraiment des mecs qui payent. Ils payent, sans rien dire. Chacun prend son plaisir où il le trouve. Hein. Soumis à rançon, 15 000 euros. Non, là, il tire pas. Non. Le gardien de la paix, Granomore, n'aurait pas eu d'autre solution que de pomper la carte de beau-papa.
Ouais, il pompait pas que la carte, d'ailleurs.
Bon, ça va, passons. Glisser, mortel, la pire. Le récit, Jean-Pierre, ah si, on avait la télé couleur, là, vous verriez du rouge, là, je vous le dis. Le récit, on l'imagine, provoque une certaine émotion chez les collègues du héros, nous dit, je crois que c'est les gars, c'est un blog nationaliste qui a écrit ça, ils sont très très marrants. La troisième DPJ met le paquet pour mettre la main sur les affreux tortionnaires.
Nouveaupresse.info, non ?
Non, c'est pas Nouveaupresse, mais enfin, c'est quelque chose comme du même genre. Je crois pas que ce soit Nouveaupresse. Et la troisième DPJ met le paquet pour mettre la main sur les affreux tortionnaires. Il apparaît rapidement que le gardien de la paix a tout inventé. Enfin, presque. Sauf, naturellement, le pompage de la carte bleue. Surgit alors une seconde version plus conforme avec la vérité. Avant d'entrer dans la police, notre Granomore a escroqué des dealers de cannabis qui l'ont retrouvé et menacé jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il leur avait dérobé à l'époque de ses fréquentations. 6 à 8 mois de sursis, avec sursis, a requis le procureur. Sympa le proc.
Et ouais. On met ça à la police.
Vol de carte bleue, escroquerie, mensonge, meurtre. Dénonciation calomnieuse. Non, le meurtre est pas compliqué.
Ah, pardon. Enfin,
dénonciation calomnieuse, 6 à 8 mois avec sursis. Et il a, et le procureur.
Bravo, monsieur Sarkozy, quand même.
Il a, oui, mais là, il est pour rien. Ah, si, pour ce qu'il embauche. Oui, bien sûr.
Pour le maintenir.
Et le proc, il a invité le tribunal à envisager une interdiction définitive d'exercer le métier de policier. C'est pas sûr encore. Voilà. Et en attendant, il est dans le métro. Affecté à la sécurité du métro. Puisqu'il y a du métro, pas la sécurité des voyageurs.
Ça s'est senti tout de suite. Hein,
ah là 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 là, on n'est pas payé cher, mais on rigole. Ah, il y a un truc que j'aime bien. Tiens, je continue ou vous avez autre chose à me dire?
Bah, sur les émeutes, moi je veux simplement signaler, puisqu'on nous reproche d'être pas très objectif, la réaction très violente de Philippe de Villiers. Sur la radio cet après-midi, il a parlé de barbarie et il a dit qu'il fallait expulser tous ces gens qui sont là sans aucun droit et donc auxquels le droit ne s'applique pas, qu'il fallait les renvoyer chez eux s'ils ont un chez eux. Il faut dire que M. de Villiers tient meeting samedi prochain 31 mars à la Porte Maillot. On se le dise, voilà, on a été objectif là.
Ouais, on a, à propos de M. de Villiers, on a un lecteur auditeur. Chaque fois que j'en parle, on m'engueule sans même écouter ce que je dis pour me dire qu'il y en a marre que vous disiez du mal de Villiers. Je dis pas de mal. Je dis pas beaucoup de bien non plus, mais je dis pas de mal.
Je le cite.
Je le cite, voilà. Et là, il y a un auditeur-lecteur qui me fait remarquer une chose. Alors, j'ai pas vérifié, mais j'ai pas de raison de mettre sa parole en doute. D'autant que. d'autant que Villiers lui-même l'a confirmé. Villiers fait une espèce de blog, comme tout le monde, un site internet dans lequel il recense absolument tous les... Enfin, dans lequel sa troupe, ces gens, recensent toutes ces interventions sur les médias. Et donc il dit, voilà, tel jour j'étais là, je serai à Radio Luxembourg, tel jour à Radio Monte Carlo. J'ai fait exprès de dire les vieux sigles parce que je sais que ça les énerve beaucoup. Tel jour à Europe numéro 1, tel jour à Radio Paris, Radio Paris Mort, Radio Paris Mort, Radio
Paris Mort. F2, F3, ça déplaît beaucoup aussi.
Oui, F2, F3, ça déplaît dans le monde. Alors, mais nous dit mon ami Bertrand, curieusement, alors que la moindre déclaration radiée, diffusée ou télévisée du MPF est répertoriée et téléchargeable sur le blog, aucune des prestations sur Radio Courtoisie n'est jamais mentionnée. Questionné le 22 mars pour justifier cette étrange omission sans exception depuis au moins 2005 envers la seule radio libre du PRL, qui l'accueille cependant très souvent, Philippe de Villiers a argué d'un argument technique irrecevable précédemment invoqué le 22 février. Alors, je connais pas cet argument, mais j'aimerais bien le connaître.
Il doit être fracassant, hein.
Ah, ouais, il doit être bon, hein. C'est vrai. Rien n'interdirait, sinon la honte, de passer sur Radio Courtoisie, de l'annoncer dans l'agenda consultable sur le site du MPF. On constate que Radio Courtoisie est la seule radio à subir cette censure de fait du MPF. L'agenda média du FN est complet, y compris pour Radio Courtoisie.
Eh ben justement, je vais continuer d'être objectif, Serge. Je vous interromps un instant pour être tout à fait objectif et signaler que Jean-Marie Le Pen aussi tient un meeting samedi prochain, 31 mars. C'est pour les entrepreneurs, les petits patrons, 13 rue de Grenelle, à Paris 15e, de 12 à 18 heures.
Il y aura peut-être les jeunes qui avaient entrepris de casser les vitrines. Oui, alors, Franck me fait savoir que l'argument technique tient. Mais ça justifie pas que ça soit pas annoncé sur l'agenda, c'est ça que je veux dire. Il y a peut-être un argument technique de l'ordre de on n'écoute pas Radio Courtoisie en Vendée, ce qui est pas vrai puisque j'ai plein d'amis vendéens qui l'écoutent.
Sur Radio Courtoisie,
on a des liens sur les blogs.
Il ne cite jamais Radio Courtoisie dans son agenda. Terminé.
On nous écoute dans le monde entier sur radiocourtoisie.net et en Vendée tout particulièrement.
Même au Japon.
Voilà.
Qu'est-ce que vous disiez?
Salut à Tokyo. J'ai dit, le 31 mars, on a le choix, on peut même aller aux deux. Moi, j'irai aux deux, d'ailleurs, à la porte avec le Libre Journal sur le ventre, à la porte Maillot avec Villiers, et 13 quai de Grenelle à 12 heures avec Le Pen.
Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles de temps en temps. C'est qu'il y a eu un sondage à la télévision portugaise pour savoir quel était le plus grand portugais de l'histoire, de tous les temps, hein. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est le regretté président Salazar qui a gagné avec 41% des voix, 41% des suffrages. Juste derrière, il y a Álvaro Cunhal, qui était deuxième avec 19%. Álvaro Cunhal, c'était le communiste. Et le troisième, c'était Aristides Sousa Mendes, un cousin probablement d'une autre, enfin d'une autre, diplomate qui aida des milliers de juifs à échapper aux nazis, qui lui fait 13%. Alors non seulement, non content d'être salazariste, les Portugais sont moyennement reconnaissants à Aristide. Voilà, et ben ça c'est quand même une bonne nouvelle que le président Salazar, qui est un des plus grands chefs d'État du XXe siècle en Europe, ait été ainsi salué par son peuple 37 ans après sa mort.
Alors du coup Serge, vous prenez les sondages au sérieux, alors là je comprends plus parce que... À la une du Libre Journal numéro 403.
Non, c'est pas un sondage.
Les sondeurs se foutent de
moi. Non, c'est pas. Je me suis mal exprimé. C'est justement le tropisme du sondage qui m'a. C'est une. Non, pas du tout un sondage. C'est une consultation démocratique. Qui a été organisée par la télévision portugaise. Voilà.
Oui, c'est pas un échec.
Qu'est-ce qu'il avait dit, Salazar? Il avait une phrase magnifique. Il avait dit « Aux âmes déchirées par le doute et le négativisme du siècle, nous avons tenté de restituer le réconfort des grandes certitudes. Nous n'avons pas discuté Dieu et la vertu. Nous n'avons pas discuté la patrie et son histoire. Nous n'avons pas discuté l'autorité et son prestige. Nous n'avons pas discuté la famille et la morale. Nous n'avons pas discuté la gloire du travail et le devoir de travailler. » Et il ajoutait, ce qui est extraordinaire, « Si la foi n'est pas un mensonge, elle est une source inépuisable de vie spirituelle. » Mais si, comme vertu, elle est un don de Dieu, nous ne comprenons ni qu'on l'impose par la force, ni qu'il y ait avantage à contrarier son action. C'est un grand bonhomme quand même, hein?
Ça me rappelle Anthony qui écrivait récemment que s'il avait vécu au XVIIe siècle, il aurait probablement été athée puisque c'était interdit.
Il n'est pas un paradoxe près, celui-là.
On continue avec Anthony. Je l'ai rencontré dimanche à Villepreux au 25e anniversaire de présent. Et il était dans une colère épouvantable. Alors ne dites pas comme d'habitude. Il était dans une colère plus épouvantable que d'habitude à cause du camarade Martinelli, le chef de cabinet de Le Pen, qui explique à Le Pen, au Figaro, qu'il y a des valeurs communes avec Sarkozy. Et donc, notre ami Anthony n'est pas content du tout, du tout. On peut le retrouver, il a un blog, je crois, qui doit s'appeler Anthony quelque chose. Vous le googlisez, vous le trouvez.
Toujours critiqué. C'est vraiment... C'est terrible, ça, cette mentalité, hein, de critiquer l'entourage du président. Il a raison, Martinez.
Oui.
Martinez a raison.
Sûrement.
Ceux qui disent le contraire de Martinez ont raison aussi, c'est tout. C'est vrai. Pas. Alors, j'ai une information, je voudrais soumettre à la sagacité des auditeurs, j'ai pas été foutu de la vérifier. Même à l'Assemblée nationale, on m'a répondu des propos dilatoires, et même dilatatoires. Avant de quitter la présidence de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré aurait fait.
C'est moi qui voulais passer ça.
Eh ben, c'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai, j'ai même une confirmation. J'ai une confirmation d'un journaliste. Je ne sais pas si je peux lui donner son nom, mais qu'il est chez Contribuables Associés notamment. Je vous confirme l'information, cette indemnité de consolation est dégressive sur 5 ans, à comparer à la durée de l'indemnité de chômage d'un salarié lambda et vive la République.
Ouais, alors, donc j'explique maintenant un peu plus clairement. Parce que...
Donc j'ai confirmation de... Enfin,
donc c'est confirmé. Alors, le cadeau en question, c'est une loi votée en catimini par tous les groupes, permet aux députés non réélus, qui ne seront pas réélus en juin, de continuer à percevoir leurs indemnités parlementaires pendant encore, non pas 6 mois comme c'était le cas jusqu'à présent, mais 60 mois. 5 ans, au lieu des 6, actuellement. Voilà.
On a que 2 milliards de dettes publiques.
Bien entendu, cette généreuse indemnité chômage est totalement inconditionnelle. Et le bénéficiaire de cette jolie rémunération de 4 ans et demi n'est tenu à aucun engagement, comme par exemple justifier de la recherche d'un nouvel emploi, d'une visite mensuelle auprès d'un conseiller ANPE, ou d'une activité justifiant cette aide sociale, bref, tout ce qui est demandé à des chômeurs ordinaires. Voilà. Alors, je signale aux auditeurs...
Il serait juste de dire quand même que c'est à travers le blog de Via Resistencia que l'info est arrivée.
Jean-Pierre Rondeau.
Alors, cette indemnité, le traitement actuel, l'indemnité actuelle d'un député, se monte à 6 857,66 €. 6 192 € de frais de mandat, 8 784 € de frais de collaborateur. Si la somme n'est pas totalement utilisée, le député peut récupérer le reste ou le remettre à son groupe politique. Alors il faut savoir d'ailleurs que beaucoup de députés embauchent, d'ailleurs c'est dans un sens, une volonté d'économie domestique bien comprise, embauchent leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, leurs cousines, leurs frères, leurs tantes, voire leurs petites amies. Et vous écrivez ça comme vous voulez. Collaborateur. Le plafonnement des indemnités liées à un mandat local est de 2 663,17 € par mois. C'est-à-dire vous avez donc 6 857 de traitement, plus 6 192 de frais de mandat, plus une bonne partie des 8 784 frais de collaborateur, plus 2 663 si vous êtes maire ou voilà. C'est bien, non? Ça va?
Donc pendant 5 années, ils vont continuer à toucher à la partie donc indemnité, ils vont continuer à la toucher pendant 5 ans.
Et si on en
dégressif quand même m'écrit le journaliste concerné, mais voilà.
Et si on envoie à Dash, Ségolène et Hollande, on fera une économie de tout ça deux fois quand même, hein. Voilà. Et Ségo ne touchera plus que 6 594 € qui est le budget, la somme que prélève chaque mois le président de la République sur le budget annuel de l'Élysée voté par l'Assemblée nationale. Voilà.
Comment les Français peuvent admettre ça quand même?
Les Français admettent tout, mon cher ami. Tout.
Elle ne paiera plus l'impôt sur la fortune, alors c'est socialiste. Et pendant ce temps-là, est-ce que je peux enchaîner, Serge? Pendant ce temps-là, les salles fachos distribuent de la soupe au SDF sur le parvis de Montparnasse. C'était hier soir. Est-ce que je peux en dire un mot? Puisque vous avez reçu souvent fois notre ami Odile Bolivar, qui est la Bolivar, qui est la présidente de l'association SDF, ce qui signifie Solidarité des Français, et qui donc recommençait, persistait à distribuer de la soupe sur l'esplanade de la gare Montparnasse hier. Moi, j'ai loupé, comme la plupart de nos auditeurs, plusieurs épisodes, et en m'y rendant, je me trouvais très courageux, parce que je m'attendais à être piétiné par la police, puisqu'il y a quelques mois, ça a été extrêmement violent, comme il s'agissait pas de jeunes, mais de vieux doublés de fachos, on les a piétinés, on a renversé leur gamelle de soupe. Eh bien, imaginez-vous que ça s'est extrêmement bien passé et que on leur imputait un trouble à l'ordre public. Alors, c'était plutôt à la gare du Nord, le trouble à l'ordre public. Là, au contraire, j'ai vu plusieurs dizaines, en tout il y avait une centaine de personnes, plusieurs dizaines de SDF qui étaient du plus grand calme, qui visiblement avaient des relations amicales et anciennes avec les animateurs de SDF. Le colonel Ronchon était là et nous avons goûté la soupe ensemble. Elle était comme d'habitude absolument exquise. Et donc, pendant une heure de convivialité, d'amitié, d'excellente soupe, c'était vraiment très bien. Et j'ai passé encore un moment avec les animateurs qui m'ont expliqué la chose suivante qui est quand même passionnante. Ils sont toujours en principe interdits. C'est-à-dire que le préfet Mutz, notre ami le préfet Mutz, là, qui apprend l'arabe en ce moment, d'après ses vantardises privées, dont nous avons eu vent, interdit de distribuer de la soupe aux cochons à Paris. Mais il y a eu des accommodements et Odile Bonivard et ses amis de SDF ont commencé à distribuer de la poule au pot et des choses de cet ordre-là en renouvelant leur demande d'autorisation tous les mois. Et elle m'a dit, Odile Bonivard, que ça n'était pas la peine de dissimuler, que le cochon était revenu dans cette soupe, parce que ses amis, elle, refusaient absolument de renier leur identité, d'ailleurs encouragés par M. Sarkozy, par Mme Royal, qui nous chante sur tous les tons que l'identité nationale, c'est quelque chose d'important, et qui n'aurait pas l'idée de nier que la cuisine au cochon fait bien partie de cette identité nationale. Alors, pour en finir avec l'aspect juridique de la chose, donc ils ont vraiment le cul entre deux chaises avec une autorisation préfectorale qu'ils outrepasse un petit peu, et par ailleurs, l'affaire, imaginez-vous, est toujours devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que SDF a porté plainte, a fait appel de la décision du préfet Mutz devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est peut-être pas si mauvaise que ça, puisqu'elle vient de refuser le recours de Battisti et de ses admiratrices, et que Battisti peut être extradé, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc, non seulement on peut mettre du cochon dans la soupe, mais on peut mettre Battisti en prison, ce qui est plutôt sympathique.
Je peux rester un peu... Je peux passer une annonce personnelle. Le 5 juillet donc 2006, le préfet Mutz a interdit donc une cérémonie en l'honneur sur les champs à l'Arc de Triomphe, en l'honneur des victimes du 5 juillet à Oran. Je recherche tous les gens qui étaient présents. Je connais pas, il y avait quelques centaines de personnes. J'ai besoin de tous les gens qui ont été empêchés de participer à cette cérémonie pour des raisons que vous comprendrez. Donc je demande à me contacter au 01 44 51 62 20. Merci.
Répétez-le parce que
01 44 51 62 20. Tous les gens qui ont été témoins ou qui ont été présents.
Voilà, je précise que Jean-Pierre Rondeau n'est pas seulement notre
expert. Combien vous donnez si on est témoin?
Non, je veux devrais.
Ah bon.
Voilà.
Jean-Pierre Rondeau n'est pas seulement notre expert financier indépendant, il est aussi président d'une association de rapatriés d'Algérie.
J'ai pas mal d'activités.
Alors, encore une exclusion, un signe d'exclusion. Il y a un Marocain qui vient d'être condamné à 30 ans de réclusion et une interdiction définitive du territoire national. C'est-à-dire que dans 30 ans, on lui dira, maintenant, il faut partir, tu vois.
Qu'est-ce qu'il c'est en a? Celui qui a arraché les yeux de sa femme?
Voilà, c'est ça. C'est ça.
C'est la faute à Goffman, à mon avis. C'est la faute.
Non, mais parce qu'il était en colère. Mais oui, non, mais attendez. Enfin, elles se permettent quand même des trucs. Ces femmes, elle est sortie sans tchador. C'est incroyable, enfin. Ah, il a arraché les yeux, bon, pas...
Hein. Il aurait dû la scalper, logiquement. Moi, je crois qu'il lui a arraché les yeux parce qu'il ne tolérait pas qu'elle regardât d'autres hommes.
Oui, non, mais je vois bien que vous ricanez tous, mais vous n'avez pas compris que il y a un truc qui est essentiel dans la société où on vit aujourd'hui, c'est le caractère multiculturel. Chacun sa culture, mon vieux. On veut empêcher ces pauvres gens d'être polygames, non? Ils ont l'habitude comme ça. Ah, ouais. Alors, naturellement, on commence par les empêcher d'être polygames, après on leur empêche de porter le voile, et puis finalement, on va leur interdire d'arracher les yeux de leur femme.
Où va-t-on?
Où va-t-on? Je vous le demande. Est-ce que M. de Beckett pourrait parler du fameux prince saoudien faisant le trafic de barils de cocaïne? Alors là, 2 tonnes qui transitaient. Mais là, c'est plus du trafic. 2 tonnes.
C'est princier.
Ah, de quoi s'en mettre dans le pif pendant un moment. Prince saoudien. Non, non, mais son avocat, Maître Vergès, dit que c'est même pas vrai.
Ah,
alors.
Ça change tout.
Hein? Donc voilà, moi, je n'y crois pas. Si M. Maître Vergès dit que c'est pas vrai, c'est que c'est pas vrai.
Et ben voilà.
Voilà.
Voulez-vous que je vous lise beaucoup de messages parce qu'ils arrivent comme à Gravelotte.
Juste avant, un truc, puis après on lira les messages et on donnera la parole. J'ai même pas dit que François Robotte était parmi nous. Il garde de Conrad le silence prudent. Il se prépare à intervenir pour nous raconter des histoires de bonne nourriture, de restaurants.
Ramenez un peu le calme.
Je ne comprends pas que les responsables de la droite nationale perdent leur temps à faire du coluche en distribuant de la soupe. Il y a des choses plus importantes et utiles à faire actuellement. Mais oui, bien sûr, il y a toujours des choses plus importantes à faire. Alors, il y a une histoire, vraiment les évêques. Moi, j'aime bien les évêques, finalement. Il faut beaucoup rigoler. Il y a un évêque à Carcassonne qui s'appelait Planète. Planète. Alors, Planet dit, il a fait un communiqué intitulé « Comment peut-on voter pour quelqu'un qui mente et qui trompe ?» Hein, effectivement, alors on va pas voter, parce que là, c'est bien clair que personne n'échappe à ça. Hein. Tous les candidats, je dis bien, hein, sont menteurs et trompeurs. Bon, c'est évident, c'est le moins menteur de tous, je vous laisse deviner. Bon. Alors, pourquoi il dit ça à Planet? Parce que il avait voulu interdire l'accès d'une salle qui lui appartient, et qui est ouverte à tout le monde, à l'église de Marseille, mais pas Marseille, Marseille-Est, Marseille-C, près de Limoux. L'accès de cette salle, il avait voulu l'interdire à une réunion amicale dont il avait découvert, alors qu'on ne lui avait pas dit, c'est qu'il est futé, l'évêque de Carcassonne, que c'était des gens du Front National. Qui... Alors, il a pris un décret épiscopal pour fermer les lieux dans la journée. Décret qui a été apposé à la porte du local. Hein, ça rigole pas chez les évêques. Hein. Il a même pris soin de téléphoner moi-même, dit-il, à la personne qui avait réservé. Je pensais que c'était entendu. On est passé outre. Et alors il dit, on pouvait tolérer l'accès à l'église de personnalités politiques venant en simple citoyen, mais on ne peut tolérer l'accès par cautèle d'un local d'église à des fins politiques. Et d'ajouter, faux cul, enfin ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui, hein. Cela vaut évidemment pour n'importe quel homme ou femme politique. Oui, comme disait Zazie. Il se fout du monde. Planète.
Par qu'hôtel, c'est très joli, ça ne veut pas dire qu'ils sont entrés par le côté hôtel de l'église. Qu'hôtel, c'est C-A-U-T-E, accent grave L-E, et ça veut dire par ruse.
Par ruse malveillante.
Il a du vocabulaire quand même, cet évêque, vous pourriez le reconnaître.
Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est un évêque.
C'est pas l'évêque analphabète comme non, on en voit quelques-uns.
Un analphabète comme ses pieds. Et alors, donc, pour compenser ça, naturellement, il y a un autre évêque qui a fait quelque chose, je ne sais plus quoi, du même genre, de la même farine.
Vous cherchez ça dans la lettre de la griffe.
Oui, dans la griffe, j'ai vu ça. Ah oui, c'est... Voilà. La griffe s'était constituée, avait organisé une manifestation devant une église qui avait été vandalisée.
Normal.
Ce qui me paraît tout à fait normal. Et l'évêque du cru... Le mec du tout du cru a fait un communiqué pour dire que il fallait pas participer à cette manifestation.
Ah non.
Bah bien sûr, qui était une
c'est discriminatoire. Bah, vous lavez-vous la tête.
Discriminationnel.
Voilà. Ils sont fabuleux, nos évêques. Ils sont fabuleux. Tiens, en ce moment, c'est le... C'est là qu'on donne du fric, là, le denier du culte. Pas un rond pour les évêques. Alors, Non. Il faut donner à Saint-Nicolas du Chardonnay, il faut donner à Riomont, il faut donner à tous les curés qu'on aime. Mais les évêques, sauf quelques-uns qui sont bien, et il n'y en a pas bizef.
On ne va pas les citer pour ne pas leur faire de l'ennui.
Ça serait trop long. Ah non, ceux qui sont bien.
Oui.
Ah non, ça serait très rapide, mais on ne va pas les citer, certainement pas. D'autant que ça change. Parce que on a dit beaucoup de mal de Di Falco, par exemple. Dieu sait, il a même été calomnié d'une façon assez répugnante. Mais j'ai appris qu'il avait, il était en train de faire son sa teshuva. Il revient vers.
Son adjournamento, on dira plutôt.
Non, parce que c'est le contraire.
Ah pardon.
Non, il revient en arrière. La teshuva, c'est un mot hébreu qui veut dire la repentance de ses fautes passées. Et notamment, il a dit à un jeune curé, enfin un jeune séminariste, il l'a autorisé à porter la soutane et le col romain. C'est et comme quand le jeune séminariste s'est pointé chez le curé auprès duquel il était envoyé en mission comme auxiliaire, le curé, alors l'histoire est fabuleuse parce que le curé lui dit, le curé qui était naturellement probablement en pantacourt et en col roulé lui dit. Ouais, tu peux pas t'habiller comme ça, pas question, je veux pas que tu sois comme ça. Alors le séminariste lui dit, non, moi, la soutane, ça va, je veux bien pas la porter, mais le col romain, j'ai l'autorisation de l'évêque, donc je reste en col romain, puis alors là, vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors il lui dit, oui, mais tu te rends compte? Alors quand il y a des pèlerinages, tous les fidèles, ils vont venir vers toi. C'est extraordinaire, non? C'est extraordinaire, je trouve, comme aveu. Ce crétin, il a même pas pensé que s'il faisait la même chose, il viendrait le voir. Il a cassé bien le curé s'il est curé. C'est pas comme gendarme, on comprend qu'ils déshabillent quand ils sortent, parce que après, quand ils prennent le métro, ils ont des soucis. Bon, voilà.
Serge, vas-y. J'ai plein de messages, beaucoup de messages, pardon, je dis des bêtises. À propos des incidents de la gare du Nord, France Inter a précisé ce matin que Sarkozy, qui prenait le train pour aller à Lille, s'était fait huer dans cette même gare du Nord, Afrique. Au métro Château Rouge, dont vous avez parlé, vous pouvez rappeler que vers la Toussaint, les voyageurs ont été frappés, volés par des bandes. On a appris par ailleurs que Faudécil l'a récusé au Conseil économique et social, venait d'être chargé de mission pour la diversité au sein de l'AREVA.
Au sein de la quoi?
AREVA. Qu'est-ce que c'est
que ça? Il n'est pas près de maigrir en tout cas.
Mais non, la garde
du
Nord.
C'est malin de se moquer des gros, alors là franchement.
Oh pardon.
Mais non, la gare du Nord, ce n'est pas la faute à Le Pen. Sur C'est dans l'air, ce soir, globalement, tous les intervenants étaient politiquement corrects et affirmaient que tout ça, c'est la faute à la misère.
Misère.
Tu t'en prends obstinément aux pauvres.
Monsieur Beckett, quand vous dites que vous entendez tomber des centaines de milliers de bulletins de vote, quel nom porte-t-il?
C'est pas moi qui ai cité Le Pen à ce micro, alors là.
Non,
vous ne me piégerez pas. Moi, je ne cite plus Le Pen, c'est fini.
C'est pas la peine.
Info diverse. Entendu ce matin à la radio Europe, je crois, François Baroin confirme que Vigipirate est dans la zone rouge. Vous avez parlé tout à l'heure de La Négresse Blonde, c'est un recueil de poésie de Georges Forest. Édition José Corti.
Voilà, en plus.
Et livre de poche.
Delarue vient d'être condamné pour violence. Mais au fait, de quelle violence a-t-il donc commis?
Il a plus ou moins cassé la gueule d'une hôtesse et d'un
steward. Il a tripoté une passagère d'abord.
Ah bon?
Footballeuse algérienne.
Il a giflé, je crois, un steward. Et voilà,
qui voulait le faire asseoir, il voulait
tout le monde,
pour le laisser se promener comme il voulait.
Mais pourquoi il a fait ça?
Parce qu'il avait pété un plomb.
Parce qu'il avait pris du Stilnox avec de l'alcool.
Parce qu'il a peur de voyager en avion.
Il a trois jours de séminaire.
C'est un somnifère, le Stilnox, ça t'endort net.
5 minutes après, crac.
Ah, j'imagine.
10 minutes après, on est réveillé.
J'imagine non, le passager pas lambda qui aurait fait la même chose. Voilà, il a 3 jours
alors,
de
séminaire. Alors, il a 3 jours de. Non, mais. 3 jours de stage citoyen. Ouais, qu'est-ce bien. Que c'est, stage citoyen? Alors, il y a un type qui expliquait ça à la radio tout à l'heure. On réunit des gens pendant 6 heures par jour. C'est l'horreur, quoi. Et on les forme aux valeurs de la République. Ah, moi, ils me filent un stage citoyen, je leur souhaite bien du plaisir. Ils vont pas être déçus du voyage, les gars. Ça va les occuper 5 minutes pour me former au meilleur de la République.
Bon, on vous filera une amende comme d'habitude.
Ben voilà,
voilà ça vous apprendra. Alors, à propos de l'école Rampal, j'ai entendu sur diverses radios le secrétaire du syndicat de police Alliance dire « De toute façon, nous n'interpellons pas des sans-papiers qui ont des enfants en bas âge ou scolarisés. »
Mais là, c'était le grand-père.
L'école Rampal, je la connais bien parce que j'ai habité tout à côté, fut un temps. Et c'est un quartier de bobos. C'est un quartier de bobos, c'est un quartier extrêmement aisé. Il y a beaucoup, beaucoup de fric, mais c'est tout, c'est habité par des gens qui sont dans la pub, qui habitent les villas d'Amérique, quoi. Et, donc j'imagine très bien la scène. Effectivement, je vois toutes ces majeures, MB, et tous ces papas, à triple foyer qui viennent chercher leurs enfants une fois par semaine, à la sortie de l'école, qui ont des dire, oh, c'est inadmissible, hein, c'est un scandale, on arrête les grands-pères maintenant. Alors, le grand-père chinois, il doit avoir 42 ans, comme tous les grands-pères chinois. Et il a été arrêté non pas comme grand-père, mais comme,
dans un bistrot,
d'ailleurs. Dans un bistrot.
Alors maintenant, il dit que c'était dans l'école. Il était au bistrot.
Vrai. C'est pas vrai. Il était au bistrot.
À tenir les murs.
En certains. Et puis, il avait pas de papier, il avait rien à foutre en France, il y a qu'à le renvoyer chez lui à coup de pompe dans le derche, et puis c'est terminé, quoi. On va pas perdre de temps. Il y a une loi, il faut faire respecter la loi, ou alors il faut la supprimer.
Vous avez raison. Vous avez évoqué les policiers, mais il y a un phénomène peu repris par la presse. Ce sont les policiers qui se suicident depuis une dizaine d'années.
On a fait un papier dans le Libre Journal il y a combien? 2 mois, peut-être, sur la méthode. Pour diviser, pour installer une ambiance de haine entre les policiers et la population. Ce qui est scandaleux, parce que normalement la population devrait avoir confiance dans les policiers. Or, on fait tout pour qu'elle n'ait pas confiance, et notamment en les obligeant à faire du chiffre en ce qui concerne des contredanses idiotes. Alors qu'il y a les lustres crus pour ça, il n'y a qu'à laisser faire les lustres crus, ça ne veut rien faire d'autre. De toute façon, ils ne sont pas foutus de faire autre chose que de mettre des croix dans des carrés pour dire « Là, il a stationné à un endroit interdit, je mets une croix. » Bon, les flics, il faut les laisser faire leur travail de flics. Il faut séparer le contrôle du code de la route des activités de maintien de l'ordre. Ça n'a rien à voir. Alors naturellement, le gars, le réflexe naturel de n'importe qui est arrêté parce qu'il a oublié de mettre sa ceinture, ou parce qu'il a mordu un peu sur la ligne jaune, ou parce qu'il a, comme moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, avancé les 2 roues avant sur un passage pour piétons, et puis quand le feu est passé au rouge, je me suis retrouvé coincé, j'ai pris une amende pour obstruction volontaire d'un carrefour. J'ai dit au type, écoutez, je trouve vraiment que vous faites très très fort là. Bon, parce que j'étais calme, mais je comprends parfaitement que les gens disent à ces gens-là, à ces policiers, là vous êtes plus malin ici avec moi à 60 balais dans ma voiture que si vous aviez en face de vous une bande de petits loubards du 93. Alors ne la ramenez pas trop. C'est comme ça qu'on crée des antagonismes définitifs entre la population et sa police. Et les flics n'ont qu'à refuser de faire ce boulot, puis c'est tout. Et on sait qu'ils sont notés maintenant en fonction du nombre de contredanses qu'ils ramènent. C'est scandaleux, voilà. Ça devient un élément déterminant des finances publiques, maintenant, les contraventions. Si bien que si les citoyens décidaient, du jour au lendemain, de respecter scrupuleusement le code de la route, dans ses moindres détails, faisaient très très attention, roulaient aux vitesses limites, dans tous les cas, s'arrêter chaque fois qu'il faut s'arrêter, etc. D'abord, ça bloquerait complètement la circulation en ville. Et deuxièmement, ça obligerait à lever un nouvel impôt, qu'on pourrait appeler d'impôt de respect du code de la route. Hein? Monsieur, vous n'avez pas payé de contredanse cette année, parce que vous avez parfaitement respecté le code de la route, donc vous êtes soumis à un impôt de 1 500 €, qui est à peu près ce que vous auriez dépensé si vous aviez fait, comme tout le monde, stationner sans autorisation et tout. Voilà. C'est ça qu'il faut faire.
Les signatures des maires viennent d'être publiées au journal officiel. On vient d'apprendre que le maire communiste de Croc, dans la Creuse, a donné sa signature à Jean-Marie Le Pen.
Parce qu'il était en ordre.
Et depuis, la gendarmerie est mobilisée car lui et la commune sont traités de fascistes. Conseil éclairé d'une dame un peu innocente. Il faut remettre des poinçonneurs dans les métros et des receveurs dans l'autobus. Ça réglera le chômage et la sécurité.
Le poinçonneur des liens, c'est le poinçonneur des giroflées, là.
Malheureux poinçonneur. Bon. Monsieur de Villiers a appelé il y a 5 ans, Chirac contre Le Pen. Alors donc, il ne bernera que les gogos une fois de plus.
Qui?
Monsieur
de Villiers. Je crois que j'avais été très clair. On ne dit pas de mal de Philippe de Villiers dans cette émission. Moi, à chaque fois, je perds deux abonnés. Vous êtes bien gentil, mais enfin. Non, elle n'obéit pas.
C'est l'auditeur.
Mais ça s'adresse aussi aux auditeurs. Je ne veux pas qu'on dise.
Soyez sage, je ne me fais pas dire ce que je ne dois pas dire.
Bon, votez Le Pen et dites du bien de Villiers.
Tous les messages intéressants qu'elle censure, et là.
Oui, là, vous avez.
Je censure. Je les donne à Serge.
Non, mais je sais pourquoi elle fait ça. Elle a été stipendiée pour détruire le Libre Journal. Pour me faire perdre des abonnés.
Dites donc. Alors, continuons. Un auditeur. Monsieur, vous qui êtes catholique, que pensez-vous de la prise de position de l'évêque de Bordeaux appelant la France à être ouverte et généreuse envers les immigrés?
Je crois que c'est Audiard qui disait il a une pensée large et profonde, ce qui n'est pas toujours un compliment pour un con. Autre chose.
À propos de la soupe aux cochons, nous sommes vraiment dirigés par une bande de porcs. Bon. Serge Le Becquetch peut-il nous donner, quelque chose de sérieux,
non.
Les références des paroles de Salazar qu'il vient de citer?
Oui, sans doute. Oui. Bon, il faudra que je cherche ça à l'occasion. Parce que
on va peut-être lire un autre message pendant que Serge fouille ça.
Tiens, il y a justement des messages personnels pour M. Goffman. Ah. Monsieur Goffman, de la soupe aux cochons durant le carême. Et encore, vous osez dire que vous y avez goûté. Je suis scandalisée, dit cette auditrice. C'est pas moi.
Elle me donne pas son numéro de téléphone.
Humiliaté, Goffman.
Je vous invite à regarder la publicité pour le Conseil régional d'Île-de-France en pages 7 et 17 du Parisien d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais vous savez, puisque vous lisez le journal.
Alors, Salazar, c'est le discours de Braga. C'est un discours célèbre de Salazar, qui est connu sous le nom de discours de Braga. Voilà. Braga, B-R-A-G-A. Voilà. On doit pouvoir le retrouver sur Google. Si vous le voulez, vous m'envoyez un petit mot au Libre Journal, 4 Place France Litz, et je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir.
C'est tout pour les messages.
C'est tout. Enfin, c'était pas la peine de déranger.
Je peux passer une info de la DIMAD, là ou...
Oui, c'est une info.
C'est pas... En fait, Éric Dereau, auteur de L'illusion coloniale, livre de dénigrement du passé colonial français, est invité le 10 avril au musée des troupes de marine comme conférencier. Cet individu qui collabore avec Sandrine Lemaire, université d'un anticolonialisme aussi marxiste que primaire, n'a pas sa place dans ce sanctuaire à la mémoire de la plus grande France. Manifestez votre opposition et votre mécontentement en téléphonant au 04 94 40 76 05 ou en écrivant à l'association des Amis du Musée des Troupes de Marine, BP 10 83 601 Fréjus, et l'email Amis du Musée en un seul mot, @wanadou.fr.
Moi, j'ai une proposition à faire.
Ça
non, mais j'ai une
proposition. C'est incroyable.
Il faut le faire recevoir dans la guitoune de l'aumônier après.
Merci à l'auditrice qui me signale la page 17 du Parisien Libéré de ce jour, parce que je m'étais arrêté naturellement à la une avec les émeutes et gardes du Nord. Et si on tourne au moins dans l'édition de Paris, jusqu'à la page 17, on trouve une publicité de la région Île-de-France.
Prenez le RER.
Présidée par ce grand honnête homme de Jean-Paul Hochon qui n'est pas absolument tous les jours traîné devant les tribunaux. Et qui s'appelle Liberté, Égalité, Mobilité, et allez donc, et gratuité des transports pour 350 000 franciliens, lesquels je le laisse à vos suppositions.
On se perd en conjecture. C'est exprès que je l'ai fait. Hein.
Vous n'oubliez pas que je lise des petites annonces pendant que...
Non, parce que je vais donner la parole maintenant à nos chroniqueurs.
Astronomiques.
Alors, non, d'abord, oui, on peut faire ça, d'ailleurs, peut-être.
On peut le dire, oui. Mais puisqu'on parle de soupe aux cochons.
Ah ben voilà, mais il va...
Et de carême.
Je ne sais pas de quoi il va nous parler ce soir.
Précisément, nous allons aborder un sujet religieux, puisque je vais vous parler de la fondation des orphelins d'Auteuil, qui vient d'ouvrir... une brasserie, et le nom de cette brasserie est absolument extraordinaire. Ça s'appelle, je l'ai sous les yeux, Auteuil Bon Restaurant. Alors c'est une école d'application, c'est une brasserie d'application, où quelques jeunes, un peu paumés, n'ayons pas peur de le signaler, ils n'étaient pas à la gare du Nord hier soir, cela je ne le pense pas, apprennent un nouveau CAP, parce qu'on a réformé le CAP de cuisinier. Le CAP de cuisinier traditionnel existe toujours, heureusement. Heureusement qu'on conserve des bases dans ce métier manuel, qui est un des métiers les plus difficiles, parce qu'il y a, heureusement ou malheureusement, deux services par jour, et les gamins embauchent tôt et terminent des fois tard. La période des coups de pompe dans le derrière est terminée, heureusement. Donc, dans ce restaurant, Auteuil Bon Restaurant, il y a un complexe avec des élèves qui sont pensionnaires. C'est une vieille histoire, les orphelins apprentis d'Auteuil. Je vais vous en dire quelques mots parce que c'est assez exemplaire et ça correspond tout à fait au débat de ce soir. Ça a été fondé en 1866 par l'abbé Louis Roussel pour recueillir les enfants des rues condamnés à une mort certaine. Il fonde une œuvre d'église. En 1923, il est appuyé par le révérend père Daniel Brottier, qui en prend la direction, et cette œuvre est reconnue d'utilité publique en 1929. Ensuite se passent beaucoup de péripéties. Il y avait une imprimerie qui vient de fermer, avec des apprentis typographes, il n'y a plus de typographie, donc on a fermé l'imprimerie, ce qui est presque d'une logique implacable par rapport au progrès de l'informatique, et la direction, parce que c'est une œuvre qui s'appelle maintenant la Fondation d'Auteuil, a décidé d'ouvrir une brasserie. Alors la brasserie, j'y suis allé, elle est très coquette, donc peu de temps il y aura une terrasse.
C'est dans le parc
C'est dans le parc de la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil, et c'est ici dans le 16e chic, peur de le dire, je vous rappellerai l'adresse tout à l'heure.
C'est pas loin de la maison de la radio.
40, oui, juste à côté de la maison de la radio, derrière, 40 rue Jean de la Fontaine. Alors évidemment, ces gamins sont environ une bonne douzaine, pour l'instant. Il y en aura beaucoup plus à la prochaine rentrée scolaire. Il y a deux professeurs qui les encadrent et qui leur apprennent à réchauffer certains plats qui viennent de l'extérieur, parce que c'est de plus en plus les grandes sociétés de restauration rapide. On va citer quelques noms, Elior, Avenance, la Sodexo, qui rafle une partie du marché mondial. J'ai appris il n'y a pas longtemps, enfin si, j'ai appris dès le début, la Sodexo nourrit les GIs en Irak. Ouais. Ils font de la tambouille pour les soldats américains, parce qu'il est hors de question de leur faire manger éventuellement du cassoulet ou de la choucroute. Il y aurait éventuellement de la désertion en quantité massive. Donc, pour alimenter ces sociétés de restauration rapide hors foyer en personnel qualifié, on a l'éducation nationale a pondu un nouveau diplôme qui s'appelle la CAP de service brasserie-café. Donc ces gamins, qui sont un peu paumés, n'ayons pas peur de le signaler, sont là, bien encadrés, réchauffent certains plats et préparent d'autres à base de salade, à base de grillade. Alors c'est quand même très intéressant parce que c'est bon, le décor est très agréable, c'est très frais et ça ne coûte pas trop cher. Un menu complet, entrée, plat, dessert, c'est à la mode, avec au choix... trois entrées, trois plats principaux et trois desserts pour 9,90 €.
Ouais,
qu'on se le dise. Et là, vous ferez non seulement une bonne œuvre, mais vraiment dans un décor très agréable. Ça n'a rien de sordide. Ça a été entièrement relooké par un architecte qui a fait ça avec beaucoup de talent. Ils avaient réussi à décrocher des budgets. Il en faut pour ce genre d'opération. Il y a également une carte brasserie très agréable avec les classiques tartes salées, tartes sucrées, du saumon fumé, des croque-monsieur. Tout ça à des prix modiques. Il y a même des hot-dogs. On m'a dit, mais vous allez parler de hot-dogs. Mais oui, pourquoi pas. Il y a aussi des gens qui mangent des hot-dogs. C'est vieux, c'est bien antérieur au McDo. Et c'est nettement meilleur de manger une bonne saucisse réchauffée à la vapeur. Alors, toujours à des prix d'une grande douceur, 2 €, 2,50 €. Il y a une carte des vins. Je sais que ça intéresse beaucoup de nos amis auditeurs. Alors, je vais vous faire rêver. Le Bourgogne Veilving est à 10,50 €. Qu'on se le dise, je répète ça d'une manière un peu
incantatoire.
Incantatoire. Auxey-Duresse, ça va aussi faire rêver nos amis auditeurs. 19,90 €.
Incroyable.
Et oui.
Bien, ça.
Oui, oui, il y a des vins au verre, bien sûr, parce que maintenant, il faut faire attention. Un verre, ça va, et vous connaissez la suite, donc il faut être très calme. Alors, il y a évidemment la carte classique avec des boissons chaudes, des boissons froides, des apéritifs pour les inconditionnels, des eaux de vie, des bières. Il y a tout ce qu'il faut. Vin rosé, vin blanc, vin rouge. Et je vous redonne l'adresse. C'est donc la brasserie Bon Restaurant de la Fondation d'Auteuil, 40 rue Jean de la Fontaine, à Paris, dans le 16e.
Je vous métro Ranelagh, non?
Oui, tout est indiqué.
Il y a même une station de RER.
Il y a même une station de RER. Je vais peut-être la retrouver dans mes documents. Je l'avais tout à l'heure,
mais en tout cas, je l'ai pas vu. C'est une sacrée bonne chronique. Ouais. Ça,
hein. Voilà. Alors, le métro, la ligne numéro 9, je ne sais pas si elle passe par la gare du Nord, mais enfin, si vous passez par la gare du Nord, vous brûlez la station avant qu'elle ne brûle. Vous descendez à la station Jasmin. Jasmin, c'est un parfum, c'est le célèbre thé chinois parfumé au jasmin, c'est un synonyme de douceur. La ligne 10, alors, là, vous descendez à station Église d'Auteuil. C'est dommage qu'on n'ait pas un plan du métro parisien, parce qu'on aurait pu contourner les obstacles. Et évidemment, comme disait notre ami Goffman, la ligne C du RER, qui s'arrête, elle, à la station Avenue du Président Kennedy, juste à côté, de la maison de la radio. Donc, je redonne l'adresse. Elle mérite vraiment, comme disent certains guides, même les plus mauvais, et ça n'est pas encore dans les lieux, un large détour pour aller à ce lycée professionnel et technologique privé Sainte-Thérèse, priez pour elle.
Non, 40 elle qui rue pour nous, plutôt.
Priez pour nous, merci. 40 rue Jean de la Fontaine, à Paris, dans le 15e. Ah,
c'est bien, ça. C'est une très bonne idée. Et d'autant que le parc est grand et joli. Et s'ils font une terrasse, c'est
vrai. Ah oui, la terrasse dès les beaux jours. La terrasse, 30 couverts en terrasse. Il y a 60 places assises à l'intérieur. C'est même climatisé, parce que en plein été, il va y faire très chaud. Il y a également des petits salons. On peut aller en banquet. Ils vont en banquet jusqu'à 120 couverts. Et le salon peut accepter une vingtaine de couverts. Alors, je remercie Madame la directrice pour tous ces renseignements. Et je remercie également Monsieur Thomas, qui est un magnifique chef de travaux, qui est là pour apprendre à ses jeunes élèves à faire un très beau métier dans l'hôtellerie. Il est assisté de Monsieur Roux. Allez les voir de notre part et je vous assure que vous serez très bien accueillis.
Rappelez-nous le nom de notre chroniqueur gastronomique, Serge.
François Robotte, c'est le meilleur actuellement.
Eh ben bravo.
Disponible sur Paris.
C'est une sacrée bonne chronique, parce que donc on va bien manger pour pas cher, faire une bonne action.
Alors, écoutez, je vais éviter de vous donner les adresses que mes très chers confrères, qui la plupart du temps ne règlent pas leurs additions, c'est une tradition ancestrale, n'est-ce pas? Nous avons connu des chroniqueurs qui se levaient toujours après le dessert et après les cigares, parce que c'est très à la mode aussi, et qui disait merci beaucoup, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, ça me rappelle également un grand comédien, Jean Poiret, qui, quand il voyait des jeunes comédiens, leur disait j'aime beaucoup ce que vous faites, et ça se répandait comme une traînée de poudre dans Paris. J'ai vu Poiret, il m'a dit j'aime beaucoup ce que vous faites, et le gars était oscarisable. Je voulais vous signaler, alors là on revient un peu aussi dans un domaine qui nous intéresse, il y a actuellement un salon professionnel à la porte de Versailles sur des nouveautés en matière d'alimentation. On reste toujours dans le casse-croûte. Et il y a un carré spécial avec des produits ethniques qui viennent du monde entier. Actuellement c'est le grand bouleversement, la grande nouveauté sont les huiles. Il y avait des huiles de pistache, il y avait des huiles de noisette. Maintenant, on va bientôt déguster de l'huile d'avocat en provenance du Mexique. Alors, ces huiles ont toutes des qualités exceptionnelles. Elles sont polyinsaturées, donc anti-cholestérol. Donc, n'en buvez pas quand même des litres.
Vous savez que le corps médical préconise l'huile de colza.
Oui, mais à condition qu'elle soit bien raffinée, parce qu'il y a eu des problèmes avec le colza. Alors cette huile d'avocat mexicaine, on la trouve parfumée à l'ail, ça évite de vous ennuyer, écraser vous-même votre gousse d'ail. On la trouve parfumée à l'orange, et on la trouve également parfumée à tout un tas d'ingrédients ajoutés qui sont, paraît-il, naturels. Donc, ça va être bientôt sur nos tables et ce salon s'appelle le Food Ethnic Show, n'est-ce pas, à l'américaine.
Allez, encore un peu d'argent dans la caisse.
C'est bien, allez.
Alors là, je fais tout de suite.
Le nourrin a changé, hein, vous avez remarqué. Ouais. Avant, c'était une petite boîte de cigares. Maintenant, c'est pas un nourrin, c'est un matou.
C'est
une... Ah oui, oui, François, elle est là, c'est ça. Donc c'est un matou.
C'est
venu.
Un minagrobis.
Voilà.
Allez,
hop, voilà.
Vous avez entendu le bruit de la pièce qui tombe.
Où ça se passe, ce salon ethnique? J'ai pas bien compris.
Porte de Versailles. Mais c'est réservé aux professionnels qui vont acheter pour ensuite commercialiser ces produits venus du monde entier.
Je voudrais, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais je voudrais apporter une réponse. Oui. C'est bien. un message personnel, une petite fiotte qui m'envoie des messages. J'ai bien une petite fiotte. Quand on fait, j'en ai coincé un jour comme ça, parce que ce crétin, il m'envoyait des fax anonyme. Injurieux, anonymes, mais il oubliait d'enlever son numéro de téléphone. Alors, je lui ai téléphoné, j'ai cherché son adresse, j'ai trouvé, et je lui ai téléphoné, et je lui ai dit, la prochaine fois que je reçois un message comme ça, je viens chez vous, je vous casse la gueule, vous avez compris? Alors, il était quand même un petit peu surpris, il s'attendait pas à ça. Alors, je dis à la fiotte en question que, quand on envoie des lettres anonymes, on évite d'écrire de sa propre main, parce que les écritures, ça s'identifie parfaitement. Espèce de petite tapette immonde. Je vais te coincer, mon gars, tu vas passer un mauvais quart d'heure.
Il y a eu un gag dans ce goulash chez Albin Michel, dans ce goulash, puisqu'on parlait du Salon du Livre tout à l'heure. Il y a un Ahmed, je ne sais quoi, qui envoie un manuscrit absolument génial chez Albin Michel, de Vierzon, enfin, disons, une toute petite ville facile à localiser. Et comme on lui publie pas, il envoie une lettre de menace anonyme du même bled de 3000 habitants, de la même écriture. J'y m'en foutre le faux dans ta boîte d'édition pourrie et tout. Et puis, on lui répond pas. Alors, il passe à l'acte, il s'amène avec des boules de pétanque. Il démolit la vitrine d'Albin Michel. Et il est tout étonné de se faire poirer le lendemain chez lui. C'est un génie. Et d'ailleurs, la preuve que c'était un génie, c'est qu'il était plagié par Philippe Labreau.
Et c'était un roman policier, parce que...
Oui,
c'est pas Zuzbegak, non?
Ah, écoutez, roman policier Battisti, dont on parlait tout à l'heure, qui a écrit une dizaine de romans policiers, et qui téléphone quand il a plus de sous, il téléphone à ses copines à Paris, et lui aussi, il tombe du cocotier quand il se fait poirer le lendemain. C'est une histoire hallucinante. Je peux terminer pendant que j'ai la bouche ouverte, Serge, un autre gag. Tout à l'heure, il y a une dame qui est très pieuse, certainement, qui téléphone. Comment? Pour protester, parce que je me suis permis de manger du cochon pendant le carême. Et alors, ironiquement, j'ai dit, mais ma chérie, il faut me donner ton numéro de téléphone.
Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez demandé.
Elle me le donne, c'est trop mignon.
Mais non, mais il ne faut pas le donner à l'antenne, quand
non,
même.
Non, je ne vais pas le donner à l'antenne. Je vais l'appeler en grand secret avec tendresse.
Bien, alors,
je
voudrais, puisque je continue un message personnel, dire au monsieur qui me propose de m'envoyer l'indispensable, que je suis tout à fait intéressé. C'est une brochure qui m'intéresse énormément. Donc si vous avez la gentillesse de me l'adresser, je vous en aurai une vive reconnaissance, cher auditeur, que je remercie. Je veux conseiller aussi aux auditeurs qui disposent de l'Internet de se brancher sur...
francecourtoise.info.
Oui, si on veut, mais aussi sur Le Perroquet Libéré.
Ah oui, c'est Paris, ça.
Ouais, menacé par de la neige.
Ouais. Alors, Le Perroquet Libéré, c'est tout à fait intéressant. Ils sont forts, hein. Ils ont beaucoup d'informations très intéressantes. Donc, naturellement, comme je suis un crétin, je n'ai pas noté l'adresse, mais vous la trouvez facilement en faisant Google. Perroquet Libéré. Et là, dans le dernier numéro, il y a un article sur une histoire extrêmement bizarroïde, les piscines flottantes. Moins d'un an après l'ouverture de la piscine Joséphine Baker, la ville de Paris a congédié l'opérateur chargé de l'exploitation du bassin flottant, la société Vert Marine. Selon des témoignages recueillis par Le Perroquet Libéré, cette éviction pourrait faire l'affaire du groupe Vinci. Tu m'as compris, tu m'as, comme on dit en Corse. Paris roule-t-il la rue de Rennes dans le collimateur de la mairie? Alors, ils disent... Visiblement encouragé par le beau résultat des expérimentations sur le boulevard Magenta. Le boulevard Magenta, je suis là, c'est la roulette russe. Hein. C'est la roulette belge, d'ailleurs, pire que ça. La mairie de Paris a prévu de faire la rue de Rennes un axe civilisé, parce que le crétin, là, il appelle ça un axe civilisé. Il a jamais foutu les pieds au boulevard Magenta, visiblement. Une belle pagaille en perspective. Depuis quelques semaines, la municipalité a lancé la phase active des travaux.
Et enfin, circulation, on n'a pas fini d'en parler. La fin des travaux, ceux du tram notamment, devrait faire apparaître de façon éclatante la pertinence de la politique municipale des transports. C'est du moins l'idée qui est relayée par les réseaux officiels de la mairie et d'une certaine presse. Si l'on en croit l'électeur du Perroquet, c'est pas tout à fait la vérité.
Et c'est pourquoi il faut voter Ségolène, déclare aujourd'hui même Monsieur Delanoë, parce que Ségolène est la seule à soutenir le tramway parisien qui permet aux riverains des boulevards des Maréchaux dans le sud de Paris de circuler sur une seule file pendant un an et demi. Donc votez Ségolène, puisque...
toujours dans le même sens.
Si vous aimez le tramway. Et d'ailleurs... Si vous êtes féministe, votez Ségolène. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'au Salon du Livre que j'ai visité, dans une ambiance extrêmement morose, je peux en dire un mot, Serge,
parce qu'on a
le temps. Oui, c'était très frappant. J'étais pas allé depuis 2-3 ans. C'est comme la télé, vous savez, j'ai viré ma télé il y a 20 ans, puis de temps en temps, je tombe nez à nez devant la télé et je suis atterré de ce que je vois. Alors là, j'étais pas allé au Salon du Livre, j'étais atterré. Des gens manifestement illettrés qui erraient avec des chapeaux en carton, des chewing-gums, des gadgets divers. Et d'un seul coup, j'ai compris que le chiffre d'affaires du livre déclinant, on avait, les grands directeurs avaient convoqué des gourous du marketing qui leur avaient dit, attendez voir, j'ai la solution, il faut vous diversifier. Moyennant quoi? 2 stands sur 3 au sein du livre maintenant, c'est le thé des écrivains, les stylos des écrivains, les journaux des écrivains, les radios des écrivains, les
télés. Les livres des écrivains, il y a aussi?
Il y a très peu de livres. Par exemple, je m'arrête naturellement sur le stand des éditions féministes, qui s'appelle plus des femmes, parce qu'elles ont fait faillite 5 fois, et qu'elles ont changé de nom 5 fois. Il y a 3 livres qui se battent en duel, mais par contre, il y a une très grande banderole qui dit « Votez Ségolène ». Alors naturellement, moi, toujours attiré par tout ce qui est féminin et féminisme, je m'approche, je crois que j'ai eu l'honneur de parler à la fondatrice Antoinette Fouque en personne, d'après l'état dans lequel je l'ai trouvée, et elle, je dis, mais je pensais que vous étiez beaucoup plus radical que ça, chère madame, et vous n'appelez à voter que pour Ségolène, enfin il me semble que la starlette, ce serait un minimum. Elle me dit, non, nous appelons à voter Ségolène parce que Ségolène a une chance d'être élue, et nous, ce qui nous importe, c'est qu'une femme soit élue, dans quelque état que ce soit, quelles que soient ses compétences, ce qui nous intéresse, c'est qu'une femme soit élue. Est-ce que ça n'est pas intéressant? Donc, si vous aimez le tramway, je résume. Si vous aimez le tramway, si vous voulez que votre boulevard soit niqué pendant un an et demi, et si vous êtes féministe, votez Ségolène. Il y a peut-être d'autres raisons, j'en ai pas eu connaissance.
Bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un marché boursier mondial, mon cher Jean-Pierre, parce que j'ai vu que
Euronext est un jour, mais oui, le but aujourd'hui, il existe le marché boursier, il existe aussi les affaires que font les marchés boursiers, et donc c'est effectivement, ce sont des entreprises, et la fusion entre les marchés n'est pas impossible. Bon, c'est tout un problème économique qui n'a rien à voir avec la bourse, sauf en tant que tel, dans la mesure où déjà le marché boursier international, il existe. Et aujourd'hui, quand on achète à Londres, on achète à Paris, on achète à New York, on peut tout à fait considérer que l'on travaille sur un marché déjà unique en termes d'échange.
Mais la bourse a baissé ces temps-ci.
La bourse baisse. J'avais dit donc d'être prudent. Hein. J'ai moi-même un peu allégé les positions de mes clients. Je suis en cours d'allègement d'ailleurs. Les principales inquiétudes, ce sont notamment le ralentissement américain. Les quelques craintes derrière qui sont l'immobilier américain, et notamment, j'en ai parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours, les faillites de banques spécialisées dans le crédit aux Américains. Le pétrole qui a un peu monté ces derniers temps, mais je rappelle qu'il est aujourd'hui à $60, hein, et que au mois de juillet il était à 80. Donc je
le
considère
litre, non.
Que non.
Ah, non.
Et donc c'est pas pour moi le phénomène le plus inquiétant, sachant que ce phénomène en plus de sur le pétrole, c'est le problème iranien. Alors je sais que je vais faire hurler certains auditeurs, mais en tout cas moi je ne crois pas du tout je ne crois pas beaucoup au risque de guerre, donc le problème principal c'est le ralentissement américain qui aurait des conséquences assez importantes sur le reste des marchés, les risques de faillite aux États-Unis sur le marché de l'immobilier, voilà.
Alors là, je vais poser la question.
Donc il faut être prudent, très prudent à court terme. Et je pense que les semaines et mois qui viennent à court terme vont être dites très difficiles. Et donc, si
bon, alors, permettez-moi que je vous pose ma question de spécialiste, parce que je vais en étaler un petit peu.
C'était la réponse, et maintenant j'attends vos questions.
Faut-il arbitrer?
Je vous ai dit la dernière fois que c'est très difficile de répondre comme ça. Tout dépend des. D'abord, faire du ce qu'on appelle du je vais donner de l'argent un peu tout de suite à la caisse. Faire du market timing, c'est-à-dire de vendre, donc je donne tout de suite un peu d'argent.
Oui.
Penser qu'on va toujours acheter au plus bas et vendre au plus haut, c'est pratiquement impossible. Donc, enfin, c'est impossible d'ailleurs, l'histoire le prouve. Donc, tout dépend des positions que l'on a. Si l'on a, on est relativement prudent actuellement, déjà prudent, et si on a des positions actions qui sont pas très fortes, on peut les conserver. Moi, j'avais 30% d'actions dans mes patrimoines financiers. Je viens d'alléger un peu, mais je vends surtout les fonds américains, les fonds internationaux et quelques fonds asiatiques. Tout ça parce qu'ils cotent en dollars. Voilà. Donc, et je conserve plutôt des actions européennes.
Donc arbitrer, ça veut dire bazarder, j'ai bien compris.
C'est vendre et pour aller se mettre en sécurité, donc soit sur du monétaire si on n'a pas d'autres moyens.
De l'obligataire.
Soit surtout pas d'obligataire direct, mais par contre des supports euros de contrats d'assurance. Voilà.
Pour
et le dollar,
détails,
on peut aussi avoir quelques mauvaises surprises. Bien sûr, on a quelques mauvaises surprises, c'est notamment à cause du dollar.
Oui, alors comme disait Goffman, si on veut en savoir plus, on peut vous appeler. Je signale que c'est pas de la publicité parce que
le cabinet
Rondo,
SDB Rondo.
SDB Rondo, voilà.
Mais arrêtez de dire ça parce que les gens vont le croire. Et
non, c'est pas vrai. C'est pas. Je touche pas.
Vous savez que ça me pose un problème. Je vais vous dire amical. Quand je lis votre journal et je vois les publicités à la fin, de temps en temps, je me dis que je ferais bien une publicité.
Mais si ça. Ah non, vous pouvez le faire parce que.
Sa photo
pour vous aider parce que
je n'ai jamais fait payer un centime la publicité qui est dans le journal, jamais. Elle est gratuite pour les amis. Et alors le résultat,
c'est que je voulais,
par exemple, cette semaine j'ai publié deux publicités, c'est le gag, j'ai publié deux, enfin c'est Goffman en plus qui croit ni à Dieu ni à diable, qui publie deux publicités pour l'église Saint-Rita, qui est l'église gallicane de Paris, ce qui fait que nos amis qui sont pas gallicans me téléphonent en disant « Ah, ça y est, t'es rallié à l'église gallicane ». Je suis rallié à rien du tout.
C'est la faute à Goffman.
C'est la faute à Goffman, exactement.
Ah, ça, c'est fort.
Et comme il y a Denis Seignier, qui est un excellent peintre, qui m'a envoyé l'annonce de son exposition au Vers-sur-Oise, je la publie. Et puis, comme il y avait un trou, on a publié pour la 60e fois la publicité pour le bouquin immonde de Goffman.
Je vais continuer à vous verser des commissions en cachette.
Voilà, au black pas, et en sous de table.
Eh bien, puisqu'on parle du Libre Journal, Serge, et qu'il nous reste 5 minutes, si naturellement Victoria me le permet, je vais prendre une minute, pas plus, rassurez-vous, pour parler du Libre Journal. Alors, donc, francecourtoise.info. Si on veut feuilleter notre collection gratuitement. Et puis, on peut se procurer ce numéro 403. D'abord, qui peut-on trouver? Je l'ai dit tout à l'heure, Beckett 2. Les sondeurs, ça fout du monde. Alors, c'est extraordinaire parce que vous avez précédé. Alors là, c'est pas les grands esprits qui se rencontrent, c'est le très grand esprit qui devance les petits esprits du Canard Enchaîné.
Enfin, on me reconnaît pour ce que je vous...
Voilà, puisque vous allumez les sondeurs plusieurs jours avant le Canard Enchaîné de ce jour. Alors eux, ils disent sondage, les jeteurs de score. Et alors, faut reconnaître que un mot quand même sur l'article du Canard. On peut recommander le Canard d'aujourd'hui parce que c'est hallucinant. Les premières lignes de leur article. Le Pen, entre 5 et 7% d'intention de vote. Bayrou devançant Royal. Sarkozy flirtant avec les 35%. Ce sondage choc ne sera pas publié. Et pourtant, il existe. Il s'agit des résultats bruts avant correction obtenus ces derniers jours par plusieurs instituts. Pourquoi ne popularise-t-il pas ces chiffres détonnants? Parce que ceux-ci, estiment les chefs sondeurs, sont à des années-lumière des vraies opinions des Français. Donc le Canard consacre une page entière à vous expliquer techniquement comment les sondages sont tripotés.
C'est fabuleux comme déclaration. C'est-à-dire, voilà les vérités, voilà les vrais sondages. Mais pourquoi on publie pas les vrais sondages? Parce qu'on sait qu'ils sont faux. Donc on publie des faux sondages parce que là on pense qu'ils peuvent être vrais.
On falsifie, voilà.
Seulement, c'est pas gratuit. Ça rapporte combien?
C'est l'ensemble du marché du sondage, c'est 800 millions d'euros. ça mérite bien quelques petits mensonges.
800 millions d'euros.
Vous savez, comme disait Barnum,
c'est
le taux de natalité.
Que je gagne dans l'année, ça.
Légèrement. Comme disait Barnum, le taux de natalité des pigeons ne décroît pas. Donc il y a toujours des gens qui les croient, ces sondages, ou qui les croient quand ça les arrange. Donc ils sont très riches, ces gens-là, pour falsifier, comme ils le reconnaissent ouvertement, ces sondages. Alors donc, vous, quelques jours avant, vous étiez attaché à un aspect particulier de ces sondages dans votre éditorial du Libre Journal numéro 403. Éditorial titré, parlons sondage, les Français détestent deux choses, le racisme et l'immigration. Et donc, vous alignez, là encore comme le canard, non moins scientifiquement, des chiffres, des pourcentages tout à fait scientifiques et tout à fait contradictoires. On a toujours François Brignot sur deux pages, ses carnets de son journal de campagne électorale. Rien que pour Brignot, ça vaut 5 euros. On a la suite et la fin de la croisière en mer de Chine du sud de notre divin marquis qui nous amène cette fois de Brunei à Singapour. On a une autre grande balade dans le mondialisme par Michel Blanza. On a, on en a parlé plusieurs fois, un papier sur Battisti, là, qui remet les pendules à l'heure qui tire au clair les mensonges de la gauche à son sujet. On a deux pages de débat sur l'islam parce qu'on a un abbé chroniqueur qui avait risqué quelques propos bienveillants sur l'islam et naturellement on a eu une avalanche de lettres à laquelle l'abbé répond.
Non, il s'est pas permis quelques propos sur bienveillants sur l'islam. Il a simplement dit que on avait avec les musulmans des valeurs communes qui étaient notamment les valeurs de la famille, du respect de la vie dans la vraie tradition musulmane. Donc ça ne justifie pas qu'on pense qu'il incite à se convertir à l'islamisme. On est quand même assez loin du compte.
En tout cas,
on a des valeurs communes avec le rabbin Citruc qui vient de se déclarer contre l'euthanasie et l'avortement.
Il cite la Bible carrément.
Et avec le rabbin Weltenschag.
De Lyon.
Il cite carrément la Bible, oui. Mais ça, ils ont un peu le droit quand même, parce que c'est eux qui ont les droits. Ils sont dépositaires du titre, oui.
Bien.
J'ai une question pour Monsieur Rondeau.
Je ne peux pas terminer ma petite rubrique, puisque j'ai plus que les adresses à donner. Donc, le site internet des Amis du Libre Journal, c'est francecourtoise.info. Ce numéro 403 dont je viens de parler, c'est un carnet de timbre de préférence, demande la directrice, ou 5 euros. L'abonnement pour un an, c'est 110 euros. À l'ordre de SDB 4 place France Lys 75010 Paris. Et pour une fois, je fais la promo de nos deux livres, puisqu'vous venez de le dédicacer sous mes yeux à une amie de Monsieur Rondeau. Donc le dernier livre de Serge de Beketch, qu'on ne trouve qu'en quantité infinitésimale dans deux ou trois librairies à Paris. Je pense que ça va être nettoyé demain matin, les quelques exemplaires qui s'y trouvent. Donc commandez, surtout si vous êtes à Tokyo. Donc Serge de Beketch, catalogue des nuisibles, édition Lévinas-Hardy. Vous envoyez un chèque de 24 euros, franco, hein, c'est bien ça Serge.
C'est un livre tellement méchant, avec 25 euros.
25 euros.
C'est un livre tellement méchant que même la presse amie...
N'en parle pas.
On n'a pas parlé.
C'est vrai, si, hein. Vous allez avoir un papier dans Rivarol.
Ah, j'en sais rien,
C'est Camille Galli qui me l'a dit à la fête de présent, donc elle doit savoir de quoi elle
parle. C'est bien, c'est gentil.
Et elle va le faire elle-même. Donc 25 euros franco. À l'ordre de... Alors cette fois, c'est Serge de Beketch, l'ordre, 4 places France List, 75,10 Paris. Et puisque vous avez eu la gentillesse de le citer avec éloge tout à l'heure, Serge, mon livre à moi s'appelle « Batafan tous les jours ». Je suis quand même soutenu par Bruno Gollnisch qui dit « J'ai beaucoup ri, ma femme aussi ». Indirectement, je suis soutenu par Ségolène Royal qui déclare « Une femme sur trois est tuée par son mari ». Donc, vous commandez Batafan tous les jours avec un chèque à mon ordre, à l'ordre de Patrick Goffman, 10 euros chez SDB, 4 places France List, 75,010, Paris.
Et ceci conclut la première... Non.
Et une question pour Monsieur Rondeau. Vous avez dit la semaine dernière que vous prévoyiez une baisse de l'immobilier de 20 à 25% dans les prochaines années. L'indice du coût de la construction a augmenté sur un an de 8%. Quels sont les éléments qui vous font penser à une telle baisse? Merci d'avance.
En 30 secondes.
C'était un peu trop facile. Il y a un tas d'éléments. C'est d'abord la hausse de l'immobilier qui est intervenue. C'est la hausse qui existe aujourd'hui de hausse des taux en matière de crédit. C'est le fait d'une partie de l'insolvabilité des gens. C'est les réactions en chaîne qui peuvent arriver aussi bien par les États-Unis que par Londres. Je l'ai dit, le marché Londres espagnol, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons.
On développera ça dans une prochaine émission.
Oui, c'est important et intéressant.
Ok, merci. Eh bien, l'émission continue, mais nos amis s'en vont.
Voici la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch, l'émission d'hier soir. Très bonne nuit à tous, vous écoutez Radio Courtoisie, il est 3h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 mars 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 29 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Alors, ma chère Victoria, on continue cette émission ou on arrête ?
Mais non, on continue allègrement et il y a beaucoup de messages de
toujours. Parce que tout le monde s'en passe, on est tous les deux là.
Mais ah oui.
Non, il y a une invitée qui vient d'arriver.
Qui arrive timidement. Alors, il paraît que c'est Pont-sur-le-Beketch, la rue La Fontaine, adresse du restaurant des Orphelins d'Auteuil, est dans le 16e et pas dans le 15e. Voilà.
Je ne peux pas parler du 15e, je sais quand même que la rue La Fontaine est dans le 16e.
Comme tout le monde. Il y a aussi des lycées publics, notamment le lycée Béliard dans le 18e, qui est un centre de formation apprenti restauration, cuisine, etc. C'est très bon et très bon marché. On peut y déjeuner aussi très facilement.
Eh ben voilà, plein d'adresses, c'est bon. Ça.
Le restaurant dont vous avez parlé, des Orphelins d'Auteuil, a-t-il un numéro de téléphone ?
Oui, certainement, mais je ne l'ai pas.
Ça doit se trouver sur la
ne l'a pas laissé.
Non. Et alors,
je le donnerai dans une prochaine émission.
Ça, c'était pour consoler Patrick Goffman, mais bon, il est parti. On peut parfaitement manger du cochon en brochette, en soupe ou autrement pendant le carême, sauf les jours d'abstinence, à ne pas confondre avec le jeûne.
Oui, le jeûne n'est pas toujours abstinent.
Rectificatif. La guitoune, cher monsieur de Bekech, la guitoune de l'aumônier n'a rien à voir avec la musique des troupes de marine.
Non,
mais fait
marine.
Partie du refrain du 2e régiment étranger d'infanterie où servit votre père.
Non, pas 2e régiment. Oui. Parachutiste aussi, c'est pas la même chose.
Mm-hmm. Je suis prêt, nous dit cet auditeur. Pardon. Je suis prêt à voter Sarkozy si celui-ci met sur les frontons de son futur ministère de l'identité la phrase de De Gaulle « Il ne faut pas oublier que nous sommes un peuple européen de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-latine. » Une auditrice. Pourquoi ne devrions-nous pas dire la vérité sur Philippe de Villiers, puisqu'il ne se gêne pas pour vilipender injustement Jean-Marie Le Pen à chaque fois qu'il parle sur Radio Courtoisie? Et il y parle souvent, beaucoup plus souvent que Le Pen. Heureusement, il y a encore quelques rares patrons d'émission dont vous êtes qui l'invitent.
Oui, mais moi je dis pas de mal de Villiers parce que chaque fois que j'ai dit du mal de Villiers, j'ai perdu un abonné.
Alors, oh, quelle tristesse.
Alors, c'est peut-être toujours le même d'ailleurs, je sais pas, mais enfin, il y a toujours quelqu'un qui m'écrit en disant je me désabonne.
Des menaces, toujours des menaces.
J'arrête maintenant, je n'ai pas les moyens.
Répétez, s'il vous plaît, le nom des invités, celui qui a parlé du restaurant des orphelins d'Auteuil.
C'est pas un invité, c'est un chroniqueur. C'est François Robot, qui est chroniqueur gastronomique et qui a eu la gentillesse de venir nous faire bénéficier de son expertise dans ce domaine.
Là, c'est pour moi mon ignorance des prononciations provinciales. On ne dit pas croque, comme j'ai dit dans la Creuse, mais croc.
Et oui, bien sûr.
Ben, c'est très bien, parce que je connais une petite fille qui va y aller en classe de nature. Par conséquent, je vais l'informer tout de suite pour qu'elle ne dise pas de bêtises. Merci, monsieur. Voilà.
Voilà, alors je me tourne vers Inès Perret qui oui, vous voulez en dire encore quelque chose.
Autre erreur, le slogan « Abat les flics et les patrons » était crié hier par une vingtaine de vieux babas 68-ards qui ont essayé de profiter de la situation, Gare du Nord, pour faire une récup de gauche. Les jeunes avaient autre chose à faire que de hurler ces slogans qu'ils ne comprennent même pas.
Je me suis contenté de lire une dépêche. Inès Perret, bonsoir. Vous venez de publier aux éditions du Dauphin un ouvrage qui s'appelle « Le dictionnaire à tout faire ». Alors ça m'a beaucoup amusé de le parcourir, parce que ça m'a rappelé mes jeunes années quand je travaillais chez Joseph Gibert, et Monsieur Joseph Gibert avait écrit, je pense pendant la guerre, un livre qui s'appelait « Comment économiser sans se restreindre ». Qui est une espèce d'incunable où il apprenait comment, par exemple, on fabrique du cirage avec de la suie, alors, c'est pas votre dictionnaire, c'est pas ça du tout, mais ça procède un peu du même système de pensée qui est très écolo finalement.
Oui.
Ça consiste à se passer de plein de choses qui existent dans le commerce et qu'on peut fabriquer soi-même ou qu'on peut trouver soi-même et qui sont utilisable dans toutes les circonstances de l'existence. Alors c'est ça qui est très drôle, c'est que le dictionnaire à tout faire, ça va de... ça concerne les conseils de santé, d'hygiène, de beauté, de la maison de jardin, y compris la voiture, en passant par la nourriture, en passant par le nettoyage, la désintoxication, tous les petits problèmes qui se présentent tous les jours. Et la première recette, c'est un dictionnaire de recettes en fait. Hein.
C'est ça.
Et la première recette, c'est une recette qui concerne l'acné.
Oui.
Comment on peut soigner l'acné. Et la dernière recette, ça concerne, je vais vous le dire tout de suite, l'usage, c'est pour ça que c'est assez sympathique, l'usage de la vodka pour conserver des fleurs coupées.
Oui.
Alors, première chose, question classique, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire, est-ce que c'est de faire ce livre? C'est une expérience familiale? Vous avez une grand-mère qui avait plein de trucs comme ça?
Si vous voulez, le défi, c'est en discutant avec l'éditeur, si vous voulez, le défi, c'était d'essayer de gérer les petites crises quotidiennes avec ce qu'on a sous la main. C'est en fait, si vous voulez, les sœurs, les petites sœurs de MacGyver. Mais pour, non pas pour réparer une centrale nucléaire, parce que ça, on n'en a pas l'occasion, on n'en a pas une chez soi. Dieu merci pour soi. Mais c'est surtout quand, par exemple, un samedi soir, vous avez un petit problème, tous les magasins sont fermés et il faut essayer de faire face avec ce que vous avez sous la main. Alors, le postulat de départ, c'est quand même d'avoir suffisamment de choses dans son placard, dans ses placards de cuisine et son placard de salle de bain, si vous voulez. Si vous n'avez aucune épice, si vous n'avez que du sel, du poivre et peut-être un paquet de pâtes, vous n'arriverez pas à le faire. Mais oui, la plupart des gens ont quand même du vinaigre, du bicarbonate, du citron, peut-être de la vodka, enfin de l'ail et du sel. Donc ça, avec ce qu'on a sous la main, on essaye de parer au plus pressé, si vous voulez.
Alors, vous venez de citer le mot de vodka, qui est un mot qui m'est cher. C'est extraordinaire le nombre de choses dont vous révélez qu'on peut les faire avec la vodka. C'est vraiment la panacée. C'est un remède universel, la vodka. Ça sert à tout.
Absolument.
À odorer, à désodorer, à désintoxiquer, à rafraîchir.
Désinfecter les plaies.
Désinfecter.
Conserver les fleurs.
Conserver les fleurs, absolument.
Oui, ouais. Et ça fait briller les chromes aussi.
Donc, il faut absolument avoir de la vodka chez soi. C'est pas polonaise ou russe, c'est pas.
Écoutez, si vous ne la buvez pas, le mieux c'est de prendre la moins chère possible.
Ouais. Mais c'est un peu de l'alcool, alors à ce moment-là, non. C'est pas tout à fait pareil quand même. Ça a plus de vertu, la vodka. C'est-à-dire qu'on peut la boire.
On peut la boire aussi. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, mal aux dents ou mal à la gorge, vous pouvez vous gargariser avec la vodka. Donc, vous anesthésiez le mal de gorge. Et puis, si vous voulez anesthésier le reste de l'individu, ben, vous avalez, sinon vous recrachez.
Je viens, quand vous êtes arrêté en voiture, vous dites au flic, bah, écoutez, moi, j'avais mal à la gorge. Voilà.
Donc, voilà,
alors, la vodka, désinfecter, anesthésier une ampoule ouverte, donner un grand coup de frein à vos pieds, désinfecter les coupures et les blessures, désinfecter un furoncle, retirer un sparadrap sans douleur en le mouillant avec de la vodka, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Fabriquer une lotion pour la goutte et les rhumatismes, ça c'est le rêve absolu. D'ailleurs, ça guérit pas, mais on oublie qu'on a mal. Lotionner un bouton d'herpès, sécher les mains moites, soulager un mal de gorge, anesthésier temporairement les maux de dents, préparer un bain de bouche. Enfin, c'est incroyable, on peut même nettoyer les montants des fenêtres.
Oui.
Ça, c'est, quand les amis viennent après, ils disent, non, ça sent bon chez vous. Astiquer les robinets avec de la vodka. Effacer les taches d'eau sur l'acide inoxydable. Décrasser les chromes, nettoyer les carreaux. Très sales, les carreaux, hein. Faire disparaître les traces de lac à cheveux sur le miroir.
Oui.
Donc quand on s'envoie un petit coup derrière la cravate dans la salle de bain, on peut dire à sa femme, écoute, j'étais en train de nettoyer le miroir. Nettoyer le cuir, nettoyer les écrans de télévision, fabriquer un lave-glace anti-gel, enlever des traces de rouge à lèvres, exterminer les moucherons, traiter les taches d'herbe sur des tissus peu fragiles, éradiquer les mauvaises herbes et conserver les fleurs coupées. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec de la vodka, en plus de la boire.
En plus de la boire, oui.
Et alors ces recettes, vous les trouvez comment ?
Alors, il y a d'abord eu l'entourage qui a été mis à contribution, pour commencer. Donc, tout le monde a une tante ou une grand-mère qui a sa recette ou ses recettes. Et puis après, j'ai compulsé des tonnes d'ouvrages qui vont des ouvrages victoriens, conseils à une jeune fille qui se marie, jusqu'aux derniers qui sont parus, si vous voulez. Mais on a toujours essayé, si vous voulez, de limiter les recettes avec ce qu'on a, parce qu'il y a des tas de livres qui proposent des recettes absolument fabuleuses, qui marchent très bien, mais il faut des ingrédients un peu...
Des trucs
d'un exotisme un peu rare. C'est vrai que ça marche très très bien, mais vous n'avez pas forcément sous la main. Donc le pari, c'était vraiment de se limiter à ce qu'on avait...
On voit les produits que vous indiquez, c'est du dentifrice, du sel, du poivre, du... bicarbonate, de l'huile,
vinaigre, c'est très pratique. Ouais. Enfin bon, et donc on vraiment s'est limité à ça. Et ce sont, mis à part la vodka, si vous voulez, ce sont tous des ingrédients qui ne sont pas chers. Il y a rien de cher dans l'histoire. Et puis bon, l'autre pari, c'était aussi d'essayer d'éviter de gaspiller. C'est-à-dire que lorsque vous mangez une banane, essayez de ne pas jeter la peau. Parce que la peau de la banane.
Qu'est-ce qu'on fait avec sa peau de banane en dehors de la glisser sous les pieds de sa belle-mère?
Ah bah il y a ça, on la conserve pour son meilleur ennemi, mais bon, quand il n'y a pas de compte à régler avec son ennemi, vous pouvez par exemple donner un petit coup sur vos chaussures si vous vous apercevez, par exemple, si vous avez un rendez-vous important. Bon, moi j'ai toujours une banane dans mon sac. Parce que ça cale bien quand on a faim. Bon.
Et ça enlève l'envie de fumer en plus.
Ça
vous
enlève
dites,
l'envie de fumer quand on a envie de fumer. Quand vous avez des crampes, c'est parfait parce que comme il y a du potassium, vous ne risquez pas de crampes. Et donc, si vous vous apercevez avant un rendez-vous important que vous avez oublié de cirer vos chaussures et que ça fait quand même très mauvaise impression, vous frottez vite, vite vos petites chaussures avec... Alors, il faut que ce soit des chaussures en cuir et de préférence foncées. Hein. Ça va pour les marrons, bleu marine ou noir. N'essayez pas de faire ça sur des chaussures claires. Et ça, non seulement ça enlève la poussière, mais ça les fait bien briller. Et puis, vous pouvez aussi enterrer, si vous avez un jardin ou un grand pot de fleurs, vous enterrez la peau de banane. Et c'est excellent pour les plantes. Et l'intérieur de la peau de banane aussi, c'est bien pour les points noirs. Et vous pouvez aussi mettre ça sur une verrue et vous entourez d'un
cerceau. C'est un peu de pulpe blanche.
L'intérieur de la peau de banane.
On fabrique une pommade qu'on met sur les points noirs.
Oui, oui, oui. Et puis, ou sur une verrue. Et c'est bien aussi la peau de banane si vous avez des plantes vertes pour faire briller les feuilles.
Ah,
vous
oui.
passez un petit coup de peau de banane sur les feuilles.
Alors, je vois que vous indiquez aussi comment on peut utiliser à des fins thérapeutiques le bain, l'eau du bain.
Oui.
Alors, il y a encore plein de recettes. On peut ajouter du bicarbonate.
Oui, oui, oui.
Pour avoir la peau douce.
C'est excellent. Alors donc si le bicarbonate, bon, l'eau du bain est adoucie
au micro.
Il faut vous parliez plus près du micro, on vous entend. Voilà,
l'eau
merci.
Du bain est adoucie avec le bicarbonate, mais aussi si vous voulez exfolier la peau, si vous voulez vous débarrasser des peaux mortes et vous faire la peau douce, vous mouillez bien la peau, vous vous frottez avec le bicarbonate, vous insistez sur les parties rugueuses, les coudes, les genoux, les talons, et après vous vous rincez, vous aurez une peau de soie.
Et si on met un peu de miel, après on a une peau encore plus douce, satinée. S'il y a du lait, alors là on devient carrément comme l'impératrice Popée.
C'est
un grand moment de bonheur.
Ah oui.
Quel est le produit, à votre avis, qui est le plus miraculeux? Enfin, parce qu'on a beaucoup parlé du vinaigre de cidre pendant des années, on nous a dit, vinaigre de cidre, ça sert à tout.
Vous
avez mal aux yeux, vous mettez du vinaigre, mal aux cheveux, vous mettez du vinaigre, vous êtes trop gros, vous buvez du vinaigre, vous êtes trop maigre, vous buvez du vinaigre. Enfin, on peut tout faire avec le vinaigre, finalement, on se demande pourquoi on fait autre chose. Vous êtes d'accord avec ça?
Alors, il faut que ce soit pas forcément, bon, le vinaigre de cidre a beaucoup de vertus, il y a aussi le vinaigre de riz qui est excellent. Certains vinaigres de vin, mais il faut qu'ils soient vieillis. Je veux dire, pour les recettes de santé, il faut que ce soit du vinaigre qui vraiment soit vieux, qui est vieilli en fût de chêne, enfin, qui soit le truc bio, si vous voulez. Et là, sur le vinaigre de cidre, il n'y a pas tellement d'études qui ont été faites, mais il y en a quelques-unes. Mais sur le vinaigre de riz, vieilli, de riz brun, hein, donc complet, fermenté. Là, il y en a énormément, beaucoup de recettes japonaises qui vont, si vous voulez, dans le sens des remèdes de bonne femme et qui donnent raison. C'est-à-dire que c'est excellent contre le diabète. Oui, ça marche bien.
Ça fait baisser le
Oui, oui, il y a des études intéressantes qui ont été faites là-dessus. C'est pas mauvais pour le cholestérol non plus, c'est bien pour la peau. Pour les cheveux aussi, ça a pas mal de vertus. Alors, ça coupe l'appétit, c'est pour ça que ça permet de maigrir. Et par contre, si vous voulez, pour nettoyer vos carreaux ou pour désherber l'allée dans le jardin, il vaut mieux prendre du vinaigre d'alcool le moins cher possible.
Et quel est le produit le plus étrange que vous ayez utilisé, le plus inattendu, la fonction la plus inattendue que vous ayez rencontrée? Je vois que, par exemple, vous expliquez qu'avec du dentifrice, on peut faire disparaître des boutons.
Oui, si vous avez un bouton, ça l'assèche, que ce soit un bouton d'acné ou un herpès. C'est bien aussi si vous vous faites piquer par moustique ou une autre bestiole. C'est excellent aussi si vous vous brûlez. Donc vous passez la partie brûlée sous l'eau très froide, évidemment, aussi longtemps que possible. Et après, vous mettez du dentifrice. Alors, il faut vraiment que ce soit le dentifrice de base, blanc, la pâte, pas du dentifrice,
pas du gel,
gel avec multicolore, tout ça, c'est simplement le blanc de base, le moins cher. Vous le mettez sur la brûlure et vous laissez sécher. Et vous n'aurez pas d'ampoule.
Et vous-même, vous utilisez ces trucs?
Oui, j'utilise.
Par exemple, qu'est-ce que vous utilisez couramment?
J'utilise par exemple le dentifrice, qui est très bien quand je me brûle. Bon, c'est parfait. C'est bien aussi lorsque vous avez fait une tache de graisse, par exemple sur un jean. Une grosse tache de graisse, vous en mettez des deux côtés de la tache, vous laissez sécher, et après vous mettez au lave-linge. Si en été vous marchez sur du goudron, par exemple sur la plage, c'est insupportable, et vous faites partir ça avec le dentifrice, ça marche très très bien. Si vos chromes sont un peu ternes, vous donnez un coup de dentifrice, vous en mettez pas beaucoup, et puis après vous frottez. Et puis si vous avez des tout petits trous dans le mur...
Ça se bouche avec du dentifrice.
Ça peut se boucher avec du dentifrice aussi. Et vous pouvez aussi vous brosser les dents avec le dentifrice.
Alors il y a également quelque chose qui est très amusant, c'est le détournement d'objets.
Oui.
Par exemple, j'ai vu que en cas de mycose de l'ongle,
oui.
Vous utilisez du Vicks Vaporub. Le Vicks Vaporub, c'est ce qu'on met sur la poitrine des bébés, ou d'ailleurs pas seulement des bébés. Quand on a un petit encombrement de poitrine, la nuit, on se met ça et c'est censé, d'ailleurs ça marche assez bien, faciliter la respiration. Vous utilisez ça contre les champignons
et ce sont souvent des médecins qui ont trouvé ça par hasard. Souvent, comme toutes les inventions, si vous voulez, on s'aperçoit en essayant. Je ne sais pas si vous avez vu un film américain qui s'appelait Mariage à la grecque.
Oui, bien sûr.
Bon, et vous voyez qu'il est toujours avec son lave-vitre contre tout.
Oui,
quand il y a des boutons pour nettoyer les vitres aussi, mais bon, dès qu'il y a un problème...
Oui, c'est secondaire,
c'est un peu ça, si vous voulez.
Alors, puisque le docteur Baudin vient de nous rejoindre, on va parler tout à l'heure avec lui de la maladie d'Alzheimer, ce qui est c'est moins amusant que votre sujet, mais c'est intéressant aussi. Mais le docteur Baudin étant médecin, comme son nom l'indique, je vais lui donner quelques conseils, je vais fort de votre dictionnaire. Notamment, est-ce que vous avez un remède contre l'eczéma?
Moi, je pratique l'homéopathie, donc je fais déjà pas mal de petites choses à base de plantes. Et d'ailleurs, je vous écoutais là tout à l'heure, madame, avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a beaucoup de petits trucs que j'ai moi-même conseillé à certains patients, comme le dentifrice sur certains boutons. Il y avait aussi le propolis, je sais pas si vous avez parlé, qui marche très bien sur les aftes. Il y a l'aloe, le jus d'aloe qui marche très bien sur les brûlures. Donc il y a tous les petits remèdes de grand-mère qui m'ont toujours, moi, j'ai travaillé longtemps à la campagne et j'entendais mes patients qui m'en parlaient et c'est vraiment très très intéressant.
Alors donc contre l'eczéma, Inès Perret propose la camomille, faire bouillir 50 grammes de fleurs de camomille dans un litre d'eau, laisser infuser pendant 10 minutes, filtrer et lotionner la peau abîmée plusieurs fois par jour. Et d'ailleurs que chaque article, bon, il y a d'autres solutions avec de la cannelle et du miel, du citron, du cresson,
la bardane
et curcuma et huile de noix de coco, du flocon d'avoine, de son, de l'huile d'amande douce, de l'huile de lavande, de la noix de muscade, de la sauge. Enfin, on peut faire plein de choses. On peut guérir l'eczéma avec plein de plantes. Mais, chaque paragraphe, chaque groupe de conseils est précédé d'une petite notice, une petite note personnelle.
Oui.
Qui est très, vous êtes, j'ai l'impression, très cinéphile. Hein.
Oui.
Parce que, bon,
je
par exemple,
suis coupable,
l'eczéma,
j'avoue.
Pendant le tournage de La Belle et la Bête, pendant 9 mois, la peau de Jean Cocteau se couvre d'eczéma comme si un sortilège le rapprochait de la pauvre bête sentimentale. L'un des remèdes préconisés à l'époque de Perrault, auteur du conte, était de mettre une pomme de terre dans sa poche.
Oui.
Ça absorbe les ondes négatives de l'eczéma.
La légende, d'ailleurs, on utilisait aussi, on retrouve ça dans les légendes et les contes des campagnes, quand vous avez une verrue, vous coupez une pomme de terre, enfin bon, ça dépend des pays, mais bon, l'une des recettes, c'est de couper la verrue en deux, la pomme de terre en deux, de frotter la verrue avec cette pomme de terre, et puis d'aller l'enterrer dans le jardin du voisin, comme ça, c'est le voisin qui se retrouvera avec la verrue. Donc vous vous en êtes débarrassé, mais le voisin peut faire la même chose et ça peut-être faire une chaîne comme ça de
Je crois que c'est dans Tom Sawyer, pour faire sauter les verrues, il y avait
aussi un remède, mais qui était un peu plus compliqué, qui faisait appel à un cadavre de chat. Ou
oui, à minuit. Quoi.
Voilà,
oui,
c'est
oui.
ça. C'est quand même mais plus bon, compliqué que la pomme de
difficile,
fer.
C'est plus difficile, alors. Bon.
Alors, vous soignez également les engelures. Enfin, vous soignez. Vous donnez des conseils contre les engelures qui sont inspirés par le film de Raoul Walsh, Du sang sur la neige.
Oui.
Dans lequel Errol Flynn recommande de tuer des lapins, de les évider et d'envelopper les pieds gelés dans les peaux encore chaudes pour lutter contre les engelures. Effectivement, on peut imaginer ça, mais à Paris, c'est pas très commode de tuer pas toujours des lapins.
Non, non, c'est pas
encore que j'avais un directeur à Minute qui rêvait toujours d'avoir un chien mexicain pour pouvoir l'éventrer et mettre ses pieds au chaud à l'intérieur, selon la vieille recette mexicaine, comme son nom l'indique. Mais on n'a jamais pu faire l'expérience. Il paraît que c'est très, très efficace. Ça réchauffe bien les pieds. Alors, l'envie de fumer. Donc, oui. J'ai dit la banane.
Oui.
Mais il y a bien d'autres choses. Il y a les radis.
Les radis, oui. Il y a le bicarbonate aussi.
Bicarbonate.
Un peu de bicarbonate dans l'eau, oui.
Alors, les radis, vous dites qu'en Chine, les fumeurs qui veulent arrêter se préparent une petite potion de jus de radis râpé et de miel. Et naturellement, quand d'ici qu'ils aient fini de vomir, ils n'ont plus du tout envie de fumer. Probablement, c'est comme ça que ça marche, non ?
Ça détourne la douleur. Vous savez que vous l'expliquerez mieux que moi, que le cerveau se concentre toujours sur la douleur la plus forte. C'est-à-dire que si on a mal à la tête, et bien on peut se donner un grand coup de marteau sur l'orteil, ouais. Par exemple. Donc le cerveau va se concentrer sur la douleur de l'orteil et oublier le mal de tête. Enfin, bon, je ne sais pas si je peux conseiller ça.
C'est peut-être pas le meilleur traitement. Mais...
C'est pas le meilleur traitement.
L'homéopathie, c'est pas exactement ça.
Mais quand on est désespéré, bon, on essaye de faire face à l'urgence de la meilleure façon possible.
Alors le curcuma contre les vomissements. Bon, je ne vais pas lire tout le bouquin parce qu'il est important. Il fait quand même combien 360 pages. 360 pages de conseils. Et c'est vraiment amusant parce que on se promène là-dedans comme dans un musée des surprises. Vous savez, on ouvre n'importe où et on dit « Ah tiens, j'aurais pas pensé à ça. Ah tiens, j'aurais pas pensé à ça. » Et alors, notamment, SOS décolleté, voilà. Vous devez porter une robe très échancrée dans le dos, comme celle de Mireille d'Arc dans Le Grand Blond, bien sûr. Avec une chaussure noire, mais hélas, vous n'avez pas de soutien-gorge auto-adhésif sans dos ni bretelles. Eh bien, s'il vous reste un bout de ruban adhésif large, je parle pour les dames, là, parce que nous, on n'est quand même pas directement concernés, Vinny, je ne sais pas, enfin, bon. Voilà. Donc, on peut, effectivement, réajuster sa poitrine avec du ruban adhésif large. C'est après, pour l'enlever, on utilise la vodka.
Exactement. Voilà. Comme ça, tout le monde est content.
À propos de vodka, quelle quantité faut-il en mettre dans le vase de fleurs ?
Oh, quelques gouttes, simplement. Quelques gouttes. Il ne faut pas tuer les fleurs. Hein. C'est simplement, si vous voulez, comme l'alcool, ça permet de limiter le développement des bactéries. Oui, comme ça, l'eau ne sentira pas mauvais.
Et la peau de banane, faut-il la mettre côté intérieur ou extérieur sur la chaussure ?
Intérieur uniquement.
Alors, à propos de peau de banane, vous dites que quand on mange une banane, on n'a plus envie de fumer. Et moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, au moment des premiers frémissements du hippisme et du beatnikisme, il y avait des gars qui faisaient sécher la pulpe de banane pour la fumer. Naturellement, ils se rendaient malades comme des cochons et ils prétendaient que ça leur faisait voir des paradis artificiels. Moi, j'ai pas essayé, mais j'ai pas eu l'impression que ça leur a réussi tellement.
Non.
Donc, fumer des bananes ou manger des bananes pour ne pas fumer.
Oui,
voilà,
enfin bon, fumer des peaux de bananes, ça me fait penser un peu à une histoire. Il y avait un attrape-touriste à New York, vous savez, quand les touristes sont à la recherche de sensations
de
fortes.
Hein.
Et il y avait un vendeur qui vendait de l'herbe, mais c'était du gazon. Et il faisait pas mal d'argent, évidemment, les clients ne revenaient pas, mais bon, c'était, ils voyaient bien le touriste, ils donnaient ça, et donc les gens étaient là, ils tiraient sur leur joie, et ça faisait rien, ils disaient, mais elle vaut rien, cette herbe, c'était l'herbe de Central Park.
Mais pourtant, si, justement, c'est excellent. Voilà, ça s'appelle le dictionnaire à tout faire. 2500 trucs. Il y en a vraiment 2500 ?
Oui. C'est l'éditeur qui a compté, c'est pas moi.
2500 trucs et astuces efficaces et utiles pour simplifier votre vie quotidienne. Voilà, avec du ruban adhésif. C'est vrai, c'est MacGyver. Du ruban adhésif, de l'Alka-Seltzer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Alka-Seltzer ? Bien sûr, on peut faire ce qu'on fait généralement avec l'Alka-Seltzer les lendemains de cuite, mais on peut également déboucher un évier. On peut nettoyer une bouteille thermos, on peut...
Orescu en référence, je frémis en le disant, nettoyer ses toilettes avec deux comprimés d'Alka-Seltzer, ce qui donne une vague idée de ce que ça fait dans l'estomac d'ailleurs. On peut déodoriser ses pieds aussi, oui, quand on a les pieds qui ont besoin d'être déodorisés, ce qui n'est pas le cas des gens bien élevés. Si votre évier en acier inoxydable est affreux, tout terne et décoré de traces, frottez-le, non pas avec de l'Alka-Seltzer, mais avec du bicarbonate de soude, sur une éponge humide et rincée. Voilà, vous êtes comme ça au courant ?
Oui, ça je savais. Il y a quelques années, nous dit cette auditrice, j'ai entendu un expert en pierres précieuses conseiller de les nettoyer avec du dentifrice, sauf pour l'opale.
Oui.
Oui, oui, absolument. Mais on nettoie les bijoux avec...
Oui, les dentifrices, c'est
très bien. Inès, merci. Alors, votre livre est paru aux éditions du Dauphin. Ça s'appelle, je le rappelle, Le Dictionnaire à tout faire. Et c'est drôle comme tout. C'est, on peut le feuilleter, on peut même... on peut jouer avec.
Oui.
Parce que ça pourrait être une version nouvelle du Trivial de poursuite avec des amis en disant, voilà, qu'est-ce que vous faites avec quand votre sorbetière est en panne et que vous voulez vite faire un sorbet à la banane? Hein? Bonne question. Voilà, on joue. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'ail, du piment de cayenne, du tabasco et du liquide vaisselle? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, Vini?
Non,
il ne sait pas, voilà. Et bien, au premier signe d'invasion par des champignons, encore une vision cinématographique de la chose, l'invasion des champignons tueurs. Non, c'était la banane, la tomate tueuse.
La tomate tueuse, oui.
Vaporisée avec un mélange de 2 tasses d'eau, 1/4 cuillère à café de piment, 1/2 cuillère à café de tabasco, 1/2 cuillère à café d'ail en poudre et 1 goutte de liquide vaisselle. Ça, effectivement, personne ne peut y résister. Merci beaucoup, Inès Pérez.
Merci.
Un petit rajout d'une auditrice. Le plus simple, c'est d'avoir un morceau de cuivre pur et l'eau ne pourrit pas et ne sent pas mauvais.
Oui, vous pouvez prendre des petites pièces de monnaie en cuivre et les mettre aussi. Vous pouvez
Savoir quoi faire avec nos pièces de 1 euro.
Et puis,
d'un centime
d'euro.
Question annexe. Serge de Bekech, peut-il nous dire où on peut trouver à Paris de la vodka russe distillée en Russie? J'en ai vu fabriquer en France, en Italie, en Angleterre, en Suède, de la vodka polonaise, mais distillée en Russie, maca.
Oui, mais c'est pas grave parce que la vodka... c'est très facile à faire. Moi-même, j'ai des souvenirs. Et donc, c'est pas utile d'avoir de la vodka distillée en Russie parce que c'est pas forcément la meilleure. Il faut de la vodka distillée à la russe, mais pas forcément en Russie.
Il y a eu des problèmes terribles avec la vodka frelatée.
En général, c'est plutôt de l'antigel. Donc, c'est pas utile d'avoir la vraie vodka russe. C'est dangereux. Enfin, c'est pas dangereux, mais c'est risqué, disons. Là, en France, on fait de la très très bonne vodka russe. Viborov, qu'est-ce qu'il y a, Stolichnaya, etc. C'est des bons produits, ça. D'autres questions de spécialistes?
C'est dommage de s'en servir pour nettoyer les vitres.
Ah oui, mais là, on peut aller chez Aide, acheter de la vodka à 2 sous, et puis voilà, on a le même résultat. Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est aux éditions du Dauphin, j'ai dit. Hein.
C'est ça.
Je le répète parce que les éditions du Dauphin sont des gens extrêmement gentils qui m'offrent tous les ans à Noël, pas une bouteille de vodka, mais une bouteille de champagne.
Autre question précise, combien coûte ce livre?
Ah, je ne sais pas.
C'est pas écrit?
Ça doit être écrit.
18 euros.
18 euros. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en prier parce qu'on peut économiser facilement 3 ou 4 fois autant par mois avec ce livre. Voilà, 18 euros pour le dictionnaire à tout aux éditions du Dauphin. Je me tourne... Alors, il n'y a pas la recette contre la maladie d'Alzheimer, docteur Baudin. Et vous venez d'écrire un bouquin qui s'appelle « La maladie d'Alzheimer ». On ne va pas prendre ça d'une façon trop tragique, encore que ce soit une maladie. D'ailleurs, est-ce que c'est une maladie, au fond? C'est pas un faisceau de symptômes, plutôt?
Non, c'est une maladie qui a vraiment sa caractéristique au niveau des neurones. On a vraiment bien...
Vous parliez plus près parce que vous avez une voix un peu... découverte.
Docteur Alzheimer a découvert comme ça vraiment la maladie avec ses caractéristiques anatomopathologiques et ses caractéristiques au niveau des lésions du cerveau. Donc c'est vraiment très très, et il faut vraiment la distinguer d'un processus de vieillissement pur et simple de lié à l'âge. C'est vraiment une maladie avec des lésions avec des plaques qui se forment entre les neurones, avec des microfibrilles qui se forment dans les neurones, avec des baisses de certains neurotransmetteurs et qui vont entraîner un certain nombre de symptômes qui vont malheureusement aller vers la dégradation progressive. Et c'est pour ça qu'un petit peu, vous me parliez d'un remède pour la maladie d'Alzheimer. Justement, on n'a pas de remède actuellement qui nous permette de stopper complètement cette maladie-là. On freine l'évolution avec les thérapeutiques actuelles. Donc je me suis tourné plutôt vers la prévention et c'était vraiment là le but essentiel de mon livre.
Alors, avant de parler de la prévention, on peut parler de l'éthiologie, c'est ça ?
Oui, bien sûr.
Comment ça se manifeste ? Quels sont les premiers signes qui peuvent laisser supposer un risque? Est-ce que ces signes sont certains? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Parce que c'est quand même assez angoissant. Étant donné la médiatisation de la maladie, on a de plus en plus de gens qui ont peur parce que d'un seul coup ils oublient un nom ou ils oublient de tourner à gauche ou ils se disent ça y est, c'est les premiers symptômes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça?
Oui, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à cette maladie, parce qu'on me posait régulièrement cette question dans mon cabinet en me disant j'ai commencé à avoir des trous de mémoire, est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? Les personnes me disaient ça avec un petit sourire, mais...
Oui, on fait toujours semblant de trouver ça très rigolo, mais en fait, on a peur.
Voilà, il y avait la peur qui était derrière. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer les troubles de la mémoire des troubles simplement de l'attention. Vous savez, tout simplement, quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes bien fatigué, d'un seul coup, vous avez les clés de la voiture à la main, vous les posez sur le meuble, parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de penser qu'il faut que vous alliez passer un coup de fil. C'est pas un trouble de la mémoire, c'est un trouble de l'attention.
Ouais. Alors là, j'avais un truc qui pourrait être dans le dictionnaire à tout faire d'inespéré... qui m'a été donné par un ami. Il me dit, quand tu poses tes clés, tu dis le nom de l'endroit où tu les poses.
Voilà.
Table, étagère, radiateur, poche et...
Donc vous revenez,
là, tu ne perds plus jamais rien.
Voilà, vous refixez votre attention, et donc à ce moment-là, ça montre bien que la mémoire est là. Et donc les symptômes le symptôme numéro un, c'est vraiment le trouble de la mémoire qui apparaît, qui est progressif. Et ce qui est difficile d'ailleurs, c'est que les personnes le cachent souvent au départ, à l'entourage le cache, et c'est souvent l'entourage qui s'en aperçoit, et c'est souvent l'entourage qui vient demander au médecin de d'examiner attentivement la personne, parce que personne a tendance à toujours minimiser ses problèmes. Après ça, se trouvent des problèmes de la compréhension, des problèmes des orientations temporelles entre des dates, des lieux, etc. Donc progressivement, malheureusement, la maladie s'étend à d'autres régions du cerveau, donc il commence à y avoir des troubles de la coordination des mouvements. Et...
Mais on va venir à la question de la maladie en elle-même, mais je voudrais vous demander s'il existe un type une cible particulière, un type, je dirais pas prédestiné, mais plus un type humain plus particulièrement menacé.
Statistiquement aujourd'hui, ce sont les personnes âgées et plutôt féminins. Donc les femmes sont plus touchées que les hommes, tout en tenant compte de la différence d'âge. Les femmes ne vivent plus longtemps.
Il y a beaucoup plus de femmes âgées que d'hommes.
En tenant compte justement de cette différence. Exactement. Les femmes sont plus touchées. Il y a un côté héréditaire également, mais je m'empresse de dire que le côté héréditaire est une toute petite cause. Enfin, il y a vraiment très peu de personnes qui sont vraiment touchées par ça.
Et l'âge moyen, vous dites âgé, mais j'ai un exemple précis d'une personne. Un homme d'ailleurs, qui a été. Alors on peut utiliser ce mot-là, ou si on ne peut pas l'utiliser, n'hésitez pas à me le dire. À 50 ans, il était foudroyé par la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, il était réduit à l'état de légumes, quoi, de quelqu'un qui n'avait plus aucune conscience, apparemment.
C'est quelque chose quand même qui est assez rarissime, ce genre de choses. Ou alors c'était vraiment, il y a eu quelque chose qui a déclenché, qui a fait basculer parce que la maladie évolue quand même sur des périodes beaucoup plus longues, heureusement. Et donc il y a peut-être eu des chocs, d'autres éléments qui ont intervenu, parce qu'il y a toujours tous les problèmes cardiovasculaires en particulier qui sont des facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer.
Ouais, alors les facteurs de risque, et donc
voilà, c'est
les facteurs cardiovasculaires
non équilibrés. Donc par exemple le cholestérol, la tension, le diabète, tout ça sont des facteurs de risque connus parce que ça agit sur la circulation, ça agit également sur la circulation cérébrale et donc d'une manière directe, ça va agir sur les neurones. Donc on sait que ça, c'est des facteurs reconnus. Après ça, il y a d'autres facteurs, il y a l'hérédité, je vous en ai touché, c'est l'âge, donc ça c'est vraiment les facteurs qui sont admis par tous. Après ça, il y a d'autres facteurs qui sont largement suspectés, qui sont toujours à l'étude, mais on sait par exemple que l'aluminium est nuisible pour les neurones, ça on a la preuve. Alors est-ce que les...
Ça c'est post-vaccinatoire à ce moment-là.
Post-vaccinatoire. Bon, pas tout, je m'empresse de dire que tous les vaccins n'ont pas de l'aluminium dedans, mais il y a certains vaccins qui ont des grosses doses d'aluminium, il y a certains médicaments aussi comme les pansements gastriques qui ont des allées d'aluminium également, et il y a aussi les ustensiles de cuisine qui sont riches en... Et il y a aussi certaines barquettes, certains plats tout préparés qui sont aussi entourés d'aluminium, ou certains yaourts qui sont recouverts d'une petite fille de...
Ah ouais.
Oui, et le pire de tout, c'est, je crois, les papillotes, les cuissons en papillotes qu'on fait avec souvent un petit peu de tomate, parce que la tomate donne l'acidité, l'acidité mobilise à ce moment-là l'aluminium. Alors, la preuve n'est pas certaine.
Donc les rouleaux d'aluminium qu'on a dans la cuisine, ça c'est...
Il vaudrait mieux éviter, mettre ça dans des plats, je dirais, en faïence classique, ou en terre, et puis d'entourer, si on veut faire des papillotes, utiliser plutôt du papier sulfuré. Mmh. Alors, on n'a pas la preuve que ça provoque la maladie de Alzheimer. Ce qu'on a la preuve surtout, c'est que c'est nuisible pour le cerveau. Ça, on le sait. Alors, de là à dire que ça vient de la maladie d'Alzheimer, il n'y a plus qu'un pas.
Alors, dans le cerveau, comment ça se manifeste? Quelle est la nature du trouble? Enfin, la nature physique du trouble.
La nature physique atteint une région très particulière. Cette région près de l'hippocampe, ça touche la région de la mémoire. Et ça se traduit par des petites fibrilles qui vont se déposer à l'intérieur du neurone. Donc, ça, c'est qui vont se condenser, etc. Et à l'extérieur du neurone se trouve ce qu'on appelle les plaques amyloïdes ou les plaques séniles qui vont entourer au fur et à mesure les neurones et qui vont faire en fait mourir les neurones. Donc au fur et à mesure, le nombre de neurones va commencer à diminuer et on voit bien d'ailleurs sur les scanners quand les personnes ont atteint un stade avancé que le cerveau a diminué globalement de volume.
Donc au début, la première possibilité d'identification, c'est une identification par comportementale.
Voilà, la première identification, c'est ça, par les comportements, les troubles de la mémoire, les troubles de la vigilance, les troubles de l'attention, les troubles de des orientations, etc. Et avec ça, le mieux est d'aller consulter un médecin. Et les médecins, on a des petits questionnaires qui prennent une petite demi-heure à faire. Et il y a trois types de questionnaires qui sont assez simples, avec des questions, reproduisez-moi un dessin, une liste de mots à prendre, dessiner une horloge indiquant telle heure, etc. Donc, des petites questions qui sont toutes simples, toutes bêtes, et qui permettent d'identifier si la personne a, si le trouble de mémoire était vraiment en rapport avec une maladie, un risque de maladie d'Alzheimer ou pas. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on pousse les investigations, on fait en particulier un électroencéphalogramme ou un scanner, qui va nous permettre d'alimenter un petit peu plus, de confirmer ou d'infirmer le diagnostic.
Alors, vous nous dites que vous êtes plutôt penché sur la prévention. Alors comment peut-on prévenir cette maladie?
Prévention, déjà, je vous ai parlé des problèmes cardiovasculaires. Donc, simplement d'équilibrer déjà les problèmes cardiovasculaires, la tension, le cholestérol, etc. Par exemple, les traitements antihypertenseurs et les traitements anticholestérolémiens sont des produits qui, déjà, préviennent bien la maladie d'Alzheimer. Alors, on ne sait pas si c'est le traitement, ce sont les médicaments proprement dit qui sont la cause, ou si c'est l'amélioration des problèmes cardiovasculaires qui font que ça prévient, mais on sait que ça marche. Après ça, le cerveau, pour vous donner un petit chiffre tout simple, représente 2% du poids du corps et il consomme à lui tout seul 20% de notre énergie, de l'énergie qu'on mange, qu'on boit, qu'on respire. Donc il suffit de voir que simplement la cellule nerveuse va être entourée d'une membrane qui permet la communication entre elles, et cette membrane doit être souple, doit pas être rigide, doit être formée par exemple de bonnes graisses. Et donc il faut intéresser, on tombe sur les oméga 3, les oméga 6. On sait que la cellule nerveuse consomme beaucoup de vitamine B, donc l'intérêt de prendre beaucoup de petites supplémentations en vitamine B, comme la levure de bière, etc. D'une manière, on sait aussi que l'oxygénation est vraiment très très importante aussi pour la cellule nerveuse, qui a besoin de beaucoup d'oxygène pour vivre. Il faut manger aussi des bons sucres, parce que les sucres rapides seront plutôt nuisibles, parce qu'ils entraîneront des chutes de sucre, des hypoglycémies, alors que les sucres féculents ou les légumineuses comme les lentilles, les petits pois, les haricots blancs, vont donner des sucres lents qui vont alimenter le cerveau niveau et qui vont lui permettre toujours de bien fonctionner. Et surtout, il faut faire fonctionner son cerveau parce que c'est un muscle, c'est comme nos muscles. Et bien, si on les fait pas travailler, ils se mettent un petit peu au repos, ils font des périclites, alors que si on les fait travailler, ils vont continuer à se développer.
Alors,
spécialement la
mémoire. Si tu parles dans le micro, ça
sera. Il faut exercer la mémoire ou.
Oui, surtout la mémoire. Par exemple, vous lisez un article et puis vous dites à la fin de l'article, tiens, qu'est-ce que je retiens de cet article? Ou alors le lendemain, vous dites, tiens, j'ai vu un film à la télévision, est-ce que je vais essayer de me raconter l'histoire que j'ai vue, ou les acteurs, ou le titre, etc. Donc on peut faire des tas de petits exercices. J'avais une personne que je connaissais, et elle lisait une définition du dictionnaire tous les jours et elle essayait de l'apprendre par cœur. Des petites choses.
Il y a le sudoku, les mots croisés, tout
voilà,
ça, c'est
très bien.
Les échecs, les dames.
Voilà, exactement. Tout ce qui fait travailler la mémoire, la concentration, le jugement.
Ce qui fait l'intérêt de votre livre, c'est que c'est un vade-mecum, en fait. Hein. On voit bien les éléments protecteurs contre la maladie, les causes de démence, les symptômes de la maladie, le diagnostic, le traitement, les traitements à l'étude. Le principe général du traitement préventif, alors là, il y a suite le traitement préventif en question, alors le régime alimentaire, améliorer sa digestion, graisser les neurones avec des oméga 3 et 6, l'hydratation, moins de sel, davantage de potassium, limiter les sucres, je crois entendre mon médecin, c'est énorme. Limiter les sucreries, supprimer l'aspartame.
Oui, mais j'ai des féculents. Je m'empresse tout de suite de dire une chose quand même qui est importante, c'est ce que je disais souvent à mes patients, c'est qu'il est interdit d'interdire. C'est-à-dire, c'est que ce sont des conseils, mais il faut bien vivre bien également. Hein. Donc, il est évident que c'est pas à suivre à 100%, mais c'est des grandes lignes à faire dans le domaine de tous les jours. Et par contre, il faut bien vivre, il faut bien sortir, il faut bien. C'est comme pour le sel caché, par exemple, le sel. Et le potassium permettent de transmettre l'influx nerveux au nom de le long des axones des neurones. Donc si on a trop de sel et pas assez de potassium, donc le déséquilibre se fait, on va avoir des problèmes de conduction. Et il y a un remède qui est extraordinairement intéressant que j'aime.
Ginkgo, non ?
C'est le ginkgo, ouais. Voilà, le bel arbre qui est un très bel arbre demeurant.
Avec ça c'est un arbre, c'est miraculeux.
Il est miraculeux cet arbre.
Étonnant. Ouais, c'est le seul arbre qui a résisté à Hiroshima.
Voilà, il a repoussé le premier à avoir repoussé après.
Étrange.
Et il résiste à la pollution urbaine. Ouais.
Doper le cerveau avec les vitamines B, en revanche, arrêter toutes les drogues. Donc si vous voulez prendre quelque chose, c'est uniquement des vitamines B. Hein. B1, B2, B3, B5, B4, non, on n'en parle pas.
Mais surtout, je vous dis, le jus de bière contient beaucoup ces choses-là, donc c'est aussi intéressant parce que ça peut se prendre en petites pauses, des choses comme ça. Non, le levure simplement, et que vous pouvez mélanger, que vous pouvez mettre dans la salade, choses qui sont faciles à prendre, ça prend pas un médicament.
Ma femme est contente parce que tous les matins, elle prend sa levure de bière.
Oui, très utile pour les femmes à certaines périodes de la vie.
Alors, en même temps, vous dites qu'il ne faut pas prendre d'aluminium, mais vous conseillez de prendre du zinc. Du manganèse, du phosphore, du cobalt, du germanium.
Métallique. Il y a pas, tout est pas à prendre et pas tout à prendre de ensemble, c'est évident. Le zinc, par exemple, est très très intéressant parce que c'est un très bon produit qui relance l'immunité et qui relance le développement des cellules. Donc c'est un produit vraiment à prendre régulièrement. Il y a un autre, ça fait partie des antioxydants et les antioxydants sont vraiment, je sais pas si vous connaissez les antioxydants, c'est des produits.
Je me suis battu contre eux pendant des années. Oui. Silence. Alors, je connais bien.
Mais il faut continuer la bagarre parce qu'ils continuent à nous agresser tous les jours parce que ce sont tous les polluants, les toxines, etc. qui viennent agresser notre corps. Ouais. Et les antioxydants sont plutôt nos amis, nos alliés qui viennent lutter contre notre oxydation, contre les radicaux libres, contre les pollutions qui viennent. Et c'est justement, c'est aussi avec le ginkgo biloba, les antioxydants ont fait aussi une preuve intéressante pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Ça fait passer des produits qui sont, et l'hydratation est vraiment très très importante parce que les personnes âgées ont toutes tendance à se déshydrater et c'est vraiment, j'ai vu des résultats assez impressionnants avec des personnes qui avaient perdu comme ça la mémoire.
Vous parlez de prévention, mais est-ce que ça peut aussi avoir un rôle de ralentissement dans le progrès de la maladie?
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut le prendre dès le départ, dès les premiers symptômes et c'est aussi, c'est l'expérience aussi que je vous transmets parce que c'est les patients que j'ai pu suivre au cours de ces années et en leur donnant des traitements, je me suis aperçu que vraiment ça permet permettait de retarder l'entrée dans la maladie d'une manière très très intéressante et significative.
Alors vous recommandez, il y a un chapitre qui est consacré aux plantes, vous recommandez toute une série de plantes qui agissent contre la maladie, qui agissent contre les symptômes secondaires, ou qui sont des nutriments pour le cerveau, alors la cérola, l'argousier, la lure de bière, la luzerne. C'est pour ça que mes lapins sont si intelligents. la graine de périlla, le soya, la spiruline. J'aime beaucoup la spiruline.
Mmh. Oui, très, très.
Surtout la spiruline odorante, c'est autre chose, mais vous savez que c'est très, très bon, ça. Tu connais pas la spiruline odorante? On fait un schnapps délicieux avec la spiruline odorante.
Voilà.
Voilà. Le varech. Et puis les fortifiants en général.
Non, parce que dans les plantes, il y a surtout le vin caminor qui est vraiment intéressante, et puis l'aulne glutinoseuse, l'anus glutinosa. J'ai plus l'habitude des noms latins et des noms français, mais c'est vraiment avec le ginkgo, c'est vraiment l'aulne glutineuse. Voilà,
l'aulne glutineuse. Joli le nom, l'aulne glutineuse. Voilà, nous irons nous promener sous les aulnes glutineuses.
Et avec les ginkgo biloba à côté, c'est vrai.
Voilà, bah écoutez, c'est un livre en tout cas réconfortant, parce qu'on se dit que on peut retarder. Moi, si j'arrive à retarder la maladie d'Alzheimer jusqu'à 95 ans, je m'estimerais heureux.
Tout à fait, tout
après,
à fait.
Après, on s'en fout un petit peu.
Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est surtout comme... même après, on ne s'en fout pas. Non, 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 je peux vous présenter des gens, même après 95 ans, ils s'en foutent pas du tout.
Bien sûr. Je raconte toujours ça, je me souviens, il y avait un monsieur qui était, je crois que c'était l'ancien directeur de la Bibliothèque nationale, qui avait été invité dans une émission de télévision, peut-être c'était l'émission de Pivot, je suis pas certain, et la puissance invitante, sans doute Pivot, lui dit « Monsieur, vous avez 102 ans aujourd'hui ». Il était magnifique, cet homme-là. Et il dit, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que quand je vous ai invité à cette émission et que j'ai proposé qu'on aille vous chercher en voiture, vous m'avez répondu, mais non, c'est pas utile du tout, car l'autobus qui passe devant chez moi s'arrête devant les studios. Et à 102 ans, ce monsieur prenait l'autobus, ce qui est quand même le signe d'un état physique extraordinaire. Enfin, bon, tout le monde fait pas ça. Et alors lui, je pense que la maladie d'Alzheimer, il ne savait même pas ce que c'est. Je l'ai entendu parler.
Vous savez, de toute façon...
C'est quand même très nouveau, ça, au fait.
La maladie d'Alzheimer, oui, c'est d'ailleurs pas tout à fait nouveau, parce que Dr. Alzheimer l'a découvert quand même depuis plus d'un siècle. Mais c'est un fait...
C'est à la mode, maintenant.
Mais c'est plus qu'à la mode, c'est que c'est un problème de société, parce qu'actuellement il y a pratiquement 600 à 700 000 personnes atteintes de maladie de Alzheimer. Moi, quand j'ai commencé en France, et si vous réunissez toutes les démences, j'aime pas ce terme-là parce qu'il n'est pas très sympathique, mais toutes les personnes qui ont des problèmes de cet acabit-là, dans toutes les étiologies, toutes les causes confondues, ça va jusqu'à 850 000 personnes en France qui sont touchées par ça. Donc ça fait pratiquement une personne sur 10 pour l'Alzheimer, et après 85 ans, ça fait pratiquement une personne sur 2, une personne sur 3. Donc c'est vraiment un gros problème de société, et c'est pour ça que les causes cardiovasculaires, etc., n'expliquent une partie des choses, mais n'expliquent pas tout. C'est qu'il y a d'autres facteurs dans notre société qui génèrent et donc le vieillissement, comme vous disiez très justement tout à l'heure, on retrouve des personnes qui ont de plus en plus des symptômes et des maladies de Alzheimer de plus en plus jeunes. Oui. Donc, et pas uniquement des personnes qui ont une hérédité. Donc, il y a vraiment quelque chose, et quand on associe un petit peu les problèmes de l'aluminium, quand on voit aussi les problèmes, par exemple, du téléphone portable, on se pose des questions, par exemple, ça donne une fragilité au niveau des membranes qui séparent le sang du cerveau. Donc, les toxines ou les métaux lourds ou les aluminiums ou les mercures pénètrent plus facilement dans le cerveau. Et est-ce que ce n'est pas là encore une cause de ça?
Alors, une question qui me préoccupe depuis longtemps, qui n'est pas un caractère thérapeutique, mais est-ce que les malades d'Alzheimer sont conscients de leur état?
Il y a une triste période justement comme ça, parce que les personnes sont conscients au début d'une perte de mémoire, donc ils le cachent, donc ils le minimisent, ils le cachent, etc. Et après ça, ils s'aperçoivent des troubles de la mémoire revient de temps en temps. Ils ont des périodes de lucidité qui peuvent durer une journée, une heure, etc. Et ils se rendent compte à ce moment-là comment ils ont été pendant dans les autres périodes. Et c'est une période très très triste et très très douloureuse. Et faut pas oublier non plus, on en a pas parlé, mais la maladie d'Alzheimer s'accompagne très très souvent d'un état dépressif, au moins au départ. Ouais. Et d'ailleurs, pour nous autres médecins, c'est assez difficile parce que c'est un diagnostic à différencier. Parce que de temps en temps, c'est difficile de dire, savoir si c'est une Alzheimer débutant ou une dépression.
Une dépression.
Donc le meilleur traitement, c'est de prendre un petit antidépresseur pendant quelques temps pour voir si ça amenuise les symptômes.
Et la recherche médicale se penche sur cette question.
Je vais vous donner quand même une belle lueur d'espoir parce qu'il y a une expérience qui a été faite au départ sur des rats parce que je vous parlais des petites plaques qui se posaient entre les neurones et les plaques, on s'est aperçu que c'était une des causes de la maladie d'Alzheimer. Donc on a utilisé ces plaques là pour les injecter à des rats qui ont ainsi fabriqué des anticorps contre ces plaques et on s'est aperçu que ça leur permettait de nettoyer ces plaques là et de retrouver leur mémoire. Et donc on a essayé la même chose chez l'homme, et ça n'a pas donné les résultats aussi d'une manière aussi importante et aussi mirobolante, parce qu'ils retrouvaient 90% de leur fonction, mais chez l'homme ça donnait déjà quand même des répercussions intéressantes. Donc c'est une piste très très intéressante.
Voilà, merci docteur. Oui, il faut que je dise une chose quand même, parce que j'ai un message du docteur Julien qui me dit une personne démente, même dans un contexte clinique suraigu, ne peut être qualifiée, comme vous l'avez fait, de pur légume. Bon, évidemment, c'est pas très adroit de ma part, pour l'excellente raison que cet automatisme de pensée est tout à fait inadéquat. Le végétal étant dépourvu de système nerveux, et dans le cas particulier de l'homme, il s'agit d'une affection neurologique, c'est-à-dire nerveuse, où le végétal n'a pas le droit de citer. Ça, c'est le bon sens, c'est évident.
Oui,
en plus, c'est pas très gentil de ma part, mais j'ai pas trouvé d'autres expressions, parce que c'est une expression qu'on utilise couramment, de façon, dans le
protocole. C'est le respect de la vie humaine, de toute façon.
Une question rapide. Que pensez-vous de l'utilisation de l'ostivia, plante utilisée pour remplacer le sucre?
Ah, c'est pas cette. C'est cet extrait d'un arbre scandinave.
Si vous voulez, je n'ai pas d'informations sur l'utilité. Ce qui est le problème du sucre en particulier, c'est que ce sont des sucres qui ont été raffinés. Alors, si on tire de ce plante-là, on l'utilise d'une manière non raffinée, un peu comme on peut le faire avec la mélasse ou avec des produits qui sont très simples, donc très bien. Mais à partir du moment où on utilise la betterave ou la canne à sucre et qu'elle est raffinée, de toute façon, c'est le raffinage qui en fait la nocivité, je dirais.
Que pensez-vous de l'aspartame?
L'aspartame, j'ai à fuir, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon livre également, est à fuir parce que si on reste simplement sur le domaine de l'Alzheimer, ça contient deux substances qui sont extrêmement neurotoxiques. Donc après ça, on a des preuves que c'est un produit qui est cancérigène. Donc, et en plus de ça, ça trompe l'organisme par rapport au sucre. L'organisme ne s'y retrouve plus à force entre le vrai sucre et le faux sucre.
Bannir à tout prix.
Oui, mais pas à tout prix. Je veux dire, là encore, on peut en prendre une fois
de temps en temps. Une auditrice vous dit, selon mon expérience personnelle, tous les gens qui ont contracté la maladie d'Alzheimer étaient des gens intellectuellement doués. Et une autre nous dit...
Oui, c'est-à-dire les autres, on s'en aperçoit pas.
Ceux qui ont en général la maladie d'Alzheimer n'ont pas une vie sociale très développée, qu'en pensez-vous?
En général, c'est plutôt les personnes qui ont un niveau intellectuel plus faible ou qui ne s'en servent pas, parce que c'est toujours la même chose, c'est qu'on peut avoir, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de l'utilisation, si on fait travailler
le cerveau est un muscle.
Voilà, on peut avoir une belle intelligence, mais si on s'en sert pas, ça va pas aller grand chose.
Un de mes médicaments, le Trivastal, contient de la lactalluminium, dois-je arrêter?
Là, je ne me permettrai pas de traiter parce que le Trivastal est aussi une des indications très intéressantes et importantes au niveau cardiovasculaire. Donc, je dirais que d'une manière générale, les produits qui contiennent de l'aluminium, il vaut mieux les éviter. Je pense que le Trivastal, il y a largement de quoi pouvoir l'échanger contre un autre produit. Donc,
le médecin, cette dame.
Voilà, exactement, absolument. Il ne faut pas le faire par soi-même, mais il y a tout à fait possibilité de prendre un autre produit qui ne contiendra pas d'aluminium.
Alors, quelle différence faites-vous entre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Pique? Pardonnez, je vous prie, une question aussi élémentaire.
C'est pas élémentaire, c'est plutôt pointu comme question.
s'impose.
Parce que ça fait, là on va tomber dans des domaines qui vont être beaucoup plus pointus, parce que c'est une question de cause de la maladie, et c'est vrai que les symptômes sont très très proches, mais les causes sont tout à fait différentes, parce que là encore dans le livre, je les ai survolés parce que ça fait pas partie trop du principe, mais il y a beaucoup d'autres causes de démence, comme on disait tout à l'heure, et donc c'est pour ça que les examens qu'on fait sont pas tellement pour faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt pour éliminer tous les autres.
Mais dans le temps, enfin quand j'étais gosse, on parlait de démence sénile, où on disait le platisme, c'était déjà c'était...
Non, pas pour toutes. Certaines devaient en être également, mais de toute façon on n'avait pas les traitements qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des traitements comme les anti-estérases qui marchent bien, cholinestérases qui marchent bien.
Un auditeur humoriste, pouvez-vous nous rappeler les prénoms du docteur Alzheimer? Je ne doute pas que vous puissiez y répondre, sauf bien sûr à les avoir oubliés vous-même. Vive
remerciement. Je suis en train d'écrire un bouquin dont le titre est quel était le prénom du docteur Alzheimer?
Dites-nous les prénoms.
En plus, il y avait Aloïs.
Ah oui, c'est Aloïs.
C'est le seul que j'ai retenu. Ouais.
Alors, l'élixir du suédois est-il un remède efficace pour la déficience neuronale?
De toute façon, l'élixir du suédois est un très bon produit d'ordre général. C'est un très bon fortifiant, tonique générale, détoxinant, etc. Donc, il ne peut faire que du bien, mais... Est-ce qu'il est particulièrement pertinent? Je pense pas qu'il soit.
L'avantage principal de l'élixir du suédois, c'est que quand votre médecin vous dit « et plus une goutte d'alcool », vous dites « non, je ne prendrai que l'élixir du suédois ».
Dernière petite question de ce genre. Que pensez-vous du glutamate?
Glutamate, c'est présent dans toute la cuisine chinoise.
Oui, dans quel contexte vous voulez dire ça? Parce qu'il y a des...
Je ne sais pas si c'est la question posée.
Parce que ça provoque des troubles. Il y a un soupçon.
Par rapport à
dire. De maladie de Guillain-Barré. Enfin, d'intervention dans la maladie de Guillain-Barré.
Des produits qui sont irritants également au point de vue digestif, etc. Donc,
il vaut mieux éviter en général. Voilà. Parce que nos estomacs ne sont pas préparés à ça. C'est dans la cuisine asiatique.
Mais on se retrouve aussi avec beaucoup de sel. C'est pour ça que je vous posais la question. On a des sels, par exemple, qui sont avec de sel de magnésium, etc., qui sont avec du glutamate de magnésium. Donc, il y a des produits. C'est pour ça que je vous posais la question du sens.
Et, attendez, alors, on nous demande de redonner le nom de notre invité.
Alors, le docteur Luc Baudin, qui a écrit La maladie d'Alzheimer aux éditions du Dauphin.
Voilà. Il vaut 16 euros. Et on demande aussi si on peut vous joindre quelque part.
Oui, mais il ne peut pas donner son numéro de téléphone.
Non, de toute façon, je peux vous donner un site internet où il y a pas mal d'informations. C'est le site qui s'appelle www.medecine-demain.com. Donc là, vous avez déjà...
Medecine-demain.com.
Voilà. Donc,
je précise que j'explique toujours qu'on ne peut pas donner les numéros de téléphone des médecins, des dentistes, enfin toutes les personnes qui appartiennent à l'univers de la santé, parce que fois ils ont des ennuis avec leur conseil de l'ordre, donc c'est pas la peine de leur attirer.
Et une auditrice âgée vous escroque une consultation. J'ai 94 ans et j'ai attrapé un zona. C'est la première maladie de mon existence. Pouvez-vous me conseiller pour m'en débarrasser?
Ouais, moi j'ai une solution formidable. Il faut aller voir Catherine Jasso.
Qui?
Catherine Jasso, qui est éthiopathe. Qui fait passer le zona par manipulation. Mm-hmm. Alors, je peux vous dire, deux séances, terminer le zona.
Même s'il est commencé depuis un moment? Parce que l'acupuncture, c'est bien, à condition que ce soit tout de suite.
Moi, j'utilise souvent l'acupuncture. J'ai l'homéopathie qui marche bien. L'éthiopathie est intéressante, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un nerf qui se retrouve malmené. Et donc, le fait de décoincer le nerf peut très bien, très très justement, c'est intéressant aussi comme vision. D'ailleurs, il y a aussi un médecin, un monsieur qui a découvert ça, contre l'asthme aussi, les manipulations.
Ça, je recommande, je peux dire, par expérience personnelle et familiale, je recommande cette méthode qui est radicale. Il faut faire appel à quelqu'un de compétent. Comme deux séances de manipulation, le zona est passé, alors que ça peut durer. Moi, j'ai trimballé un zona quand je ne connaissais pas cette technique. J'ai trimballé un zona pendant des mois. C'est pas marrant du tout.
Carrément.
Je ne le conseille pas à mon meilleur ennemi. Quoi qu'il y a quelqu'un à qui je pense en ce moment, j'aimerais bien qu'il en chope pas.
Tiens.
J'ai cité personne, donc on ne peut pas m'en vouloir.
Vous l'avez pensé.
Merci, docteur Baudin.
Merci à vous.
La maladie d'Alzheimer.
Et je tiens à préciser que ce livre a été écrit pour les personnes, les malades. C'est pas un livre de docteur, c'est un livre
de docteur pour les docteurs,
pour les personnes, pour tout le monde.
La comprendre, la prévenir. Et ça vaut 16 euros aux éditions du Dauphin encore. Voilà.
Ouais. Merci.
Vous êtes rassurée, Victoria ?
Moi, je suis pas très inquiète.
C'est déjà la moitié du travail.
Merci. Madame Savic, alors vous, je suis tranquille. Là, vous êtes complètement garantie contre tout soupçon de maladie d'Alzheimer, étant donné le travail magnifique que vous faites avec votre cerveau.
Dans le micro. Je ne suis pas sûre du tout. Quand j'ai écouté le docteur, là, je me suis dit peut-être
ça y est, ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de du genou de la femme de chambre qui avait été décrit dans Trois hommes dans un bateau. Vous savez, Jérôme Cajeron raconte comment il ouvre un dictionnaire médical. De la première à la page, il y a toutes les maladies, sauf, pour une raison qu'il ne s'explique pas, le syndrome du genou de la femme de chambre. Voilà. Alors, vous êtes intéressé à la tunique d'Argenteuil, qui est le sujet favori de notre ami Vinnie Wurmeling. Et vous avez émis une critique extrêmement vigoureuse et étayée de la datation au carbone 14. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi d'abord vous vous êtes penché sur cette question ? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans ?
D'abord, parce que M. Wurmeling me l'a demandé, et ensuite, parce que tout ce qui est les rapports entre science et foi, c'est quelque chose qui me passionne. Quand on entend dire que le Saint-Suaire est faux, parce qu'il a été daté au radiocarbone, par exemple, c'est une chose qui m'a bouleversée. Ouais. Parce que je suis de religion catholique, et j'étais sûre que le radiocarbone datait faux parce que je l'avais étudié. Et quand le docteur Tait a annoncé la datation médiévale, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va réagir. Et puis, il n'y a eu personne. Et moi, j'étais encore dans mon travail. Et j'avais fait un tout petit article sous le pseudonyme de Michael Winter, en montrant que le radiocarbone datait faux. Et ce petit article avait été publié dans les nouvelles du Séché de Dominique Tasso. Et Dominique Tasso l'avait repris sans rien me dire et l'avait publié dans un livre qu'il avait écrit avec le docteur Clerc. Et c'est ainsi que je suis entrée dans la bataille. D'abord, il a fait passer le Michael Winter en question pour un savant américain. Et puis, parce que c'était pas, enfin, je n'étais pas représentative. Puis, comme il a eu beaucoup d'ennuis parce que tout le monde a critiqué son livre qui contenait des erreurs, c'est certain, il s'est tourné vers moi et j'ai dû un jour, j'ai rencontré le docteur Van Coenberg, j'ai rencontré Jacques Evin et Dominique Tasso à Lyon. Et il a été question que je parle la table ronde radiocarbone qu'on avait organisée en 1989. Mmh. Et ça a été ma première surprise. J'estime que j'ai fait une très bonne communication et elle a disparu. Si vous demandez à...
Dans les actes du colloque, vous voulez dire ?
Absolument. On n'en a plus entendu parler. Et je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Apparemment, j'étais la dernière des dernières. Ce que m'a dit M. Van Coenberg. M. Salay m'a dit la même chose. Et Claude Tresmontant, qui assistait également au colloque, lui, au contraire, l'a trouvé très intéressant. Et il m'a adressé à son éditeur, qui était François-Xavier de Guibert, qui m'a dit... oui, c'est intéressant, mais ça devrait être étoffé. C'est trop court. Là-dessus, le temps a passé, 9 ans, et j'ai publié en 1999 un gros livre, je regrette de ne pas l'avoir amené ici, où je montre en détail pourquoi le radiocarbone date faux. Ce livre est encore en vente chez M. de Guibert. Qui veut savoir dans le détail pourquoi le carbone date faux peut se le procurer. Il coûte 30 euros.
Voilà.
Mmh. Et son titre et
le, oui, c'est vrai. Le radiocarbone face au linceul de Turin.
De Turin, oui, je le connais, bien sûr. C'est un bouquin essentiel.
Écoutez, ce que il est essentiel pour une raison qui m'a étonnée. Parce que M. de Guibert a essayé de le faire connaître par les journalistes. Ils se sont tous défilés.
Oui, alors ça, vous savez, moi, on va dire que je suis encore obsédé par le complot, mais il y a eu, évidemment, une mobilisation, notamment à travers les réseaux maçonniques,
oui,
pour interdire toute contestation du carbone 14, parce que ce sont c'est une espèce de complot maçonnique qui a décidé que le sanctuaire, c'était la date qui avait été indiquée par Taille, d'ailleurs avec un point d'exclamation,
oui, oui,
ce qui est contraire à la courtoisie scientifique.
Ironique.
Bien sûr. Et il est revenu ensuite, lui, en arrière, parce qu'il s'est fait quand même sévèrement moucher, parce que il n'y a pas qu'en France que ça intéresse les gens. Ça concerne directement beaucoup de gens dans le monde, et notamment de généreux mécènes qui entretiennent les laboratoires, qui font ces recherches et qui payent les chercheurs. Alors, il n'y a pas que la franc-maçonnerie qui douille. Il y a aussi des gens qui croient et qui sont des gens honnêtes et tout, et qui ont dit à Taïd probablement qu'il avait poussé le bouchon un peu loin. Alors, il a fait machine arrière. D'ailleurs, beaucoup ont fait machine arrière.
Oui,
on a eu des démonstrations.
Maintenant, on ne sait plus.
Alors, maintenant, on ne sait plus.
On ne sait plus qui a daté exactement ce
qu'on sait de façon certaine, c'est que le carbone 14 ne présente pas un caractère de fiabilité absolue, ainsi que l'a démontré le fait, par exemple, qu'on a daté au carbone 14. J'ai cité ça 10 fois, des bois de serre qui sont datés dans 200 000 ans.
Oui, 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 ça n'est.
C'est-à-dire qu'ils n'apparaîtront que dans 200 000 ans. Donc, c'est un peu difficile après d'expliquer que c'est une méthode infaillible. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette méthode infaillible, soi-disant, cette méthode qui est une imposture, enfin, en partie une imposture.
Qui est une imposture, oui.
Elle a été quand même, en quelque sorte, on pourrait dire, portée sur les fonts baptismaux par des membres de l'Académie pontificale. Alors là, ça pose un vrai mystère, ça.
Est-ce que je dirais ce que je vous ai dit?
Dites tout ce que vous avez envie de dire, bien sûr.
Eh bien, j'ai posé, figurez-vous, j'étais à Turin en 1998, il y avait un congrès organisé par les Italiens. Et tout à fait par hasard, au repas qui terminait le congrès, j'étais assise à côté d'un certain Monseigneur Chmiel, qui est un ami de Jean-Paul II, polonais, juif polonais. Et je lui ai posé la question. Alors il m'a dit, écoutez, on n'a pas envie que le linceul soit authentique. Parce que vous comprenez, nous voulons organiser la réunion au Sinaï des trois religions. Est-ce que vous vous rendez compte, si le pape reconnaît que le linceul est authentique, que l'image est l'image du Christ? Mais on n'arrivera jamais, personne, les musulmans ne voudront pas, les juifs ne voudront pas non plus, donc le pape ne veut pas.
Extraordinaire, ça c'est vraiment extraordinaire, c'est une révélation incroyable que vous venez de faire.
C'est la vérité. Et ça n'a pas changé, enfin je ne sais pas maintenant comment est le nouveau pape, hein, mais en tout cas Jean-Paul II était comme ça.
Eh ben, ça ouvre des horizons lointains, comme dit.
Oui, et ça continue comme ça.
Ouais.
Il y a 3 ans, ils ont donc fait le même test carbone 14 pour la Sainte Tunique d'Argenteuil. Et c'est, vous savez qui a annoncé le résultat? C'est l'évêque de Pontoise qui a dit dans une conférence, qui a dit à la presse.
Alléluia,
c'est 95,6% sûr que ce n'est que c'est du Moyen-Âge.
Ils se foutent du monde parce que ça ne veut rien dire. L'indice de certitude, ça peut pas être 95,6% parce que c'est pas un indice mathématique. C'est un indice qui est purement et simplement spéculatif. À 90%, c'est ça. Ou 99%, ça veut dire c'est sûr. Mais 95,6, se foutent du monde. Ces évêques se foutent du monde.
Enfin, c'était quand même bien qu'il a fait ça, parce que sinon on n'aurait jamais démarré pour faire autre chose, et on n'aurait jamais connu d'ailleurs Madame Oosterweek ici sur Paris, sur cette manifestation.
Est-ce que quand même, dans ce milieu dans le milieu du Vatican, l'Académie pontificale, est-ce que vous avez trouvé des appuis, quand même, des oreilles attentives? Rien du tout.
Non.
J'ai envoyé mon livre à l'Académie pontificale des sciences. J'ai reçu en réponse une lettre écrite en anglais. J'écrivais en français, bien sûr, pour déjà montrer qu'il ne comprenait pas, en disant qu'il me remerciait beaucoup de mon livre, qui serait une belle décoration sur les étagères de
Qui est-ce qui vous a écrit ça?
Un certain Sanchez Sorondo. Alors, il m'écrivait: chère Marie-Claire. Alors, moi, je m'appelle Marie-Claire, je reconnais.
Oui,
j'écrivais en titre de scientifique, ouais, de docteur en sciences. Je ne m'attendais pas, au moins, chère.
Oui, on connaît, c'est une façon de dire: bon, ma petite fille, t'es bien gentille, ton joli dessin, on va le coller dans la cuisine au-dessus du réfrigérateur.
Exactement. Alors, je lui ai répondu. Il s'appelait Marcelo Sanchez Sorondo.
Cher Marcelo.
Cher Marcelo, j'ai compris que vous ne saviez pas le français, puisque vous m'écriviez en anglais. Je vous en prie, faites lire mon livre par le père Maldamé, qui est très compétent en la matière, et qu'il en fasse la critique.
Terminé.
Silence.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de complot, y compris jusqu'en dans les caves du Vatican ou chez les caves du Vatican, je ne sais pas comment il faut dire.
Je ne sais pas, je n'en suis pas certain. Il y a déjà une chose qui me dérange beaucoup, c'est que ce père Maldamé s'exprime sur le sanctuaire du point de vue scientifique alors qu'il est théologien. Qui ne connaît mon métier, je l'ai appris, je dirais en usant mes fonds de culotte sur les bancs de l'école, c'est la physico-chimie, c'est la cristallographie, ce sont les radiations. J'ai passé tous les diplômes, mais je ne me mêlerai quand même jamais de faire des cours de théologie, je n'y connais pas grand-chose. Mais lui, qui ne connaît rien dans ces domaines, il dit d'un ton péremptoire que le linceul est faux à cause de l'âge radiocarbone. Alors, il est également lu à Gif-sur-Yvette, parce qu'ils ont un petit journal qui avait fait un petit article sur le linceul en se disant que peut-être qu'il était quand même authentique. Vivement, le père Maldamé est arrivé en disant attention, ne croyez surtout pas ça.
C'est curieux parce que ces gens ne foutent pratiquement rien. Enfin, on les entend jamais, ils bronchent pas. Mais là ils se mobilisent quand même.
Oui,
hein,
oui,
c'est important. Là.
Oui, c'est important, ça les dérange. Ouais, les dérange. Alors maintenant, cette pauvre sainte tunique...
Alors venons-en à la sainte tunique maintenant, parce que...
Attendez, je voudrais quand même encore dire quelque chose. Si personne, ou presque, n'en a parlé ici en France, en Amérique, j'ai eu beaucoup d'échos favorables. Les Américains sont différents. Et notamment, Paul Maloney, je vous ai montré sa lettre, qui est le directeur du groupe ASSIST. Je suis sûr que vous ne connaissez pas le groupe ASSIST. C'est la suite du STURP. Ça, vous connaissez le STURP?
Oui, bien sûr. C'est la première opération d'authentification du sanctuaire, qui aboutit d'ailleurs à la conversion de plusieurs chercheurs, dont un des plus importants qui était juif et qui s'est converti.
Oui. Il ne s'imaginait pas du tout qu'il était vrai. Oh là là, il y a déjà tout ça. Bon.
Il y a beaucoup de questions.
Ça n'est rien.
Ou de réflexion. Je vous en prie, continuez.
Ce Paul Maloney est quelqu'un qui connaît l'hébreu, le latin, le grec, qui connaît également les sciences exactes, qui a fait une banque de données sur le linceul et il a recensé tous les livres. Et en 2001, il m'a écrit une lettre où il me disait que mon livre était le meilleur de tous et qu'il pouvait parler en connaissance de cause parce qu'il en avait lu à ce moment-là, je crois, 6000. Donc, en France, on n'en a presque pas parlé parce qu'il dérange. Il dérange les certitudes et puis parce que je l'aborde, j'essaie de le faire compréhensible pour tout le monde, mais il est quand même lourd, il est long. Enfin, mais il se lit quand même.
Oui, bien sûr. Alors, la Sainte Tunique, vous avez émis les mêmes critiques qu'à propos de la datation du Saint-Suaire, fondée sur les mêmes soupçons de non-validité d'abord du...
Mais, c'est vrai.
De la datation et de non-adéquation à l'histoire en plus.
Oui. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé, c'était la façon dont les gens de GIF avaient travaillé. Quand on fait une expertise, on la signe toujours. Un expert signe son expertise. Ici, ce sont deux dames qui ont travaillé à GIF qui n'ont pas voulu signer leur expertise. Ouais. Il y a eu également un livre de Jean-Marie Deval, qui est le sous-préfet d'Argenteuil. Il a écrit un livre, Une si pauvre et si sainte tunique, oui. Où il a suivi très attentivement tout le déroulement des opérations. Mais il s'exprime en tant que personne non formée scientifiquement au niveau pointu, quoi. Et je vois que les dames d'Argenteuil lui expliquent les choses de façon à ce qu'ils ne le comprennent pas. Oui. Bon. Et de même, ils publient leur rapport. Moi, j'avais demandé le rapport à l'évêque, à Monseigneur Riocreux, qui n'a pas voulu me le communiquer.
C'est tout à fait étonnant, quand même.
Mais ils ont fait, c'était une expertise anonyme. Qui a été répandu partout, mais qu'elles en prennent la responsabilité.
Alors c'est anonyme, l'évêque refuse de la transmettre à des scientifiques.
Oui.
Mais il en tient quand même la conclusion c'est incroyable.
Oui.
C'est une manipulation d'une grossièreté, d'une médiocrité en plus.
Absolument. Ouais. C'est désagréable. Ouais. Ce qui avait d'intéressant aussi dans le rapport. Qui a quand même été publié dans ce livre de M. Deval, donc qui est en réalité
c'est son vrai nom, oui.
Son vrai nom.
Ouais. Peu importe, enfin, c'est le sous-préfet local.
André.
Ça n'a pas beaucoup d'importance.
Jean-Pierre Maurice.
Maurice.
Jean-Pierre Maurice. Ouais. Bon. Il publie le rapport de ces dames. En enlevant leur nom. Mais ça, on n'a jamais vu ça.
Jamais.
Contraire
à la même maladie ontologie élémentaire de...
Oui.
Scientifique.
Scientifique.
Et,
oui, enfin,
alors, ce qui m'avait surpris, et ça c'était la première fois que je le voyais publié, parce que sinon on vous assène pour le linceul de Turin, 1260-1390... déterminé par statistique à 95% de probabilité. Et quand vous lisez cet article, je vous assure, c'est incompréhensible de A à Z. Mmh. Et j'ai fait un peu de statistique, et je me disais, ça cache quelque chose. Et en effet. Mais il ne donnait pas, il ne disait pas... Il disait qu'il nettoyait les échantillons, il les disait en détail, mais il ne disait pas le poids avant et le poids après.
Ah, voilà.
Et ici, à GIF, pour la première fois, ces dames donnent le poids qu'elles ont pesé avant et après le traitement. Parce qu'ils font un traitement pour enlever le carbone moderne, un traitement de nettoyage. Et qui, assez étonnant... quand vous faites, je ne sais pas si jamais enlever des taches d'un vêtement, vous voyez sur le flacon, attention, commencez d'abord par
un essai sur le revers.
Sur le revers, pour être sûr que ça ne le dissoupe pas. Et déjà pour nos vêtements qui sont de laine, de coton, de synthétique ou n'importe quoi, on remarque qu'on peut rater son nettoyage en utilisant un mauvais solvant. Or ici, pour toutes les tâches, tous les contaminants, ils utilisent toujours le même traitement, qui est un traitement acide-base-acide, qu'ils appellent le traitement AAA en anglais, acide alcalique acides. Les dames de GIF disent qu'elles font le traitement, mais ne disent pas lequel. Mais après avoir passé la tunique qui est en laine à ce traitement,
ça détruit la laine aussi.
Elles ont dissous 60%.
Alors, Madame Stavik, j'ai un gros problème, c'est que le temps est passé tellement vite qu'on fait signe qu'il faut qu'on arrête l'émission parce qu'on est au bout.
Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire?
Eh bien, écoutez, alors il y a deux solutions. Ou vous revenez l'émission prochaine, ou alors vous avez une conférence, vous avez quelque chose que vous allez donner prochainement ou
non,
dans laquelle
si. Bon, demain à Duquesne, dédicace.
Alors vous êtes à Duquesne demain. Bon,
oui, 16h30 à 18h30. Oui.
Voilà, 16h30 à 18h30 chez Duquesne. Voilà. Est-ce que je vous propose, je suis désolé, mais on n'a pas vu du tout le temps passer, c'est que vous reveniez nous voir dans un délai le plus proche possible. On arrangera une date avec Vini, si vous voulez. Et puis, on continuera, parce que c'est absolument passionnant. Et là, on prendra carrément...
Mais comment est-ce que je vais faire? Est-ce que ça pourrait être demain?
Non, il faut qu'on fasse ça la semaine prochaine ou dans quelques jours.
Comment est-ce que je n'arriverai pas?
On va trouver une solution. Hors micro, on va s'arranger.
Bon.
Voilà. Je suis désolé, mais je n'ai même pas vu l'heure passer. Et Franck me fait des signes désespérés. Franck, pardon d'avoir outrepassé le temps. Bon. Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 mars 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 29 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix Franco de Port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Ce libre journal sera rediffusé pour la dernière fois tout à l'heure à 7h30.